Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 1er février 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 2 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Nous sommes à l'antenne. Amis de la Résistance, bonsoir. Je n'avais pas de retour, alors je ne pouvais pas savoir que nous étions à l'antenne. Je suis tout seul en plus. Enfin, je suis tout seul façon de parler. Parce qu'on va passer une bonne soirée, puisque Kaufmann n'est pas là. Le Marquis n'est pas là. Et Victoria n'est pas là. C'est bien. C'est bien d'être assisté comme ça. On s'est engueulé, ils sont partis. Moi, je ne céderai pas, c'est comme ça. Et puis voilà. Non, c'est pas vrai. Toute la vérité, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Qu'ils ont trouvé du travail sérieux. Le Marquis va nous appeler tout à l'heure. Victoria, je sais pas comment elle fait, elle a encore attrapé un rhume, une grippe, allez savoir. C'est un petit bout de femme comme ça, de rien du tout, c'est un courant d'air, ça est pas collé au mur, terminé. Bien, alors donc on va essayer de faire ça, on va parler un peu de l'actualité. J'ai rencontré mon ami, mon excellent camarade, l'Alsaco. C'est l'Alsaco, monsieur le docteur Plantet. Alors, je vais quand même présenter les invités avant. Donc, le docteur Plantet, je ne présente pas dans l'ordre de courtoisie, mais parce que je viens de m'adresser à lui, que les auditeurs connaissent et qu'ils seront contents de retrouver parce que on se plaint qu'il soit fait rare.
Nous avons aussi.
Comment ?
J'ai rien à dire, mais vous avez les moyens.
Vous dites tellement bien que
vous avez les moyens de me faire parler.
Mon camarade Vinnie Vermeuling, Bill Gates.
Alles gut.
C'est bien. Et puis alors, nous avons un personnage que je suis content de vous faire découvrir parce que vous verrez que c'est... Enfin, si ça continue sur le ton où ça a commencé, on va pas s'ennuyer. C'est Irina Pilipchuk qui a écrit un livre intitulé Chikatilo, camarade serial killer, qui est l'histoire du terrifiant tueur en série. Oui, ça, ce truc vert là, vous voyez, c'est un micro. Et alors, et elle a écrit avec l'aide et l'assistance de mon camarade Jean-Pierre Fabre. Monsieur Jean-Pierre
bonjour,
Fabre, bonsoir.
Bonjour Serge.
Avec qui nous avons vécu des aventures nombreuses et variées. Même et variées, maintenant, depuis le temps, un peu
variées, oui, c'est ça, oui.
Voilà. Alors, avec tout ça, on va essayer de faire une émission. Je signale tout de suite que je viens de recevoir une surprise absolument inattendue. Alors vraiment, je suis à la fois... très 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 content et extrêmement mécontent parce que c'est un livre auquel je vais me jeter dessus, comme on dit poliment. Le menteur magnifique Chateaubriand en Grèce de Michel de Gégère, paru aux belles lettres. Et alors moi qui croyais que Michel était un ami, je ne savais même pas qu'il écrivait un livre sur Chateaubriand en Grèce. Il a fait ça en douce, en même temps qu'il faisait la christianophobie. Et ça, j'ai presque envie d'arrêter l'émission tout de suite pour me jeter dedans, parce que comme j'aime bien Chateaubriand. Oui, c'est vrai, c'est pas du snobisme, j'aime bien. Je trouve que le Mémoire d'Outre-Tombe, c'est un très très grand livre. Et le Génie du christianisme, ça tient aussi pas mal la route quand même. C'est presque aussi bien que les bouquins de Madame Norton.
Norton, oui.
Hein, le Génie du christianisme.
Le Génie du christianisme.
Oui, c'est presque aussi bien que Nathalie Norton.
Presque.
Hein, presque.
Presque. Ouais. Faut pas exagérer.
Ça, il y a plus de pages en tout cas, c'est certain.
Il y a moins de photos peut-être.
Oui. Alors ça, je suis très content. Michel de Gégère, le menteur magnifique, Chateaubriand, en Grèce, paru aux belles lettres. Ça vient de paraître apparemment et ça vaut 19 euros, je le signale aux amateurs. Jetez-vous chez votre libraire. Moi, je frémis d'impatience. Bien, alors je disais donc que j'ai rencontré mon camarade Klaus Steiger, le patron de l'Alsaco, qui m'a raconté une chose qui s'était passée dans son restaurant. Il avait un monsieur qui est venu dîner et qui s'est garé devant le restaurant, et à peine était-il sorti de sa voiture que les lustres crus, c'est ce que c'est que les lustres crus?
C'est les quadrillés.
Oui, c'est les quadrillés. Hein? On les appelle les lustres crus. Avant, c'était les aubergines, maintenant, c'est un autre genre, c'est les lustres crus. Les lustres crus, ah ben, il faut que j'explique ça à Irina Pilipiuk. Ce sont les policiers qui sont chargés, enfin, les policiers, ce sont des gens en uniforme qui sont chargés uniquement de verbaliser les automobiles et de bloquer la circulation. C'est-à-dire, en réalité, ils font semblant de l'améliorer, mais ils la bloquent totalement. Avec
on les reconnaît quand ça roule plus à l'étoile. Voilà. On peut être sûr qu'ils sont là.
Voilà. Hein? Avec la complicité de monsieur Delanoé, qu'on appelle le boucheur des Monctoires. Et donc, ils se sont précipités et ils ont verbalisé l'automobile à pétrole de ce dîner, qui est sorti, naturellement, pour essayer de négocier avec eux. Il n'y a rien eu à faire. Et ils lui ont dit, puis allez-vous-en, parce qu'autrement, on remet ça. Alors, il est pas parti, il est rentré pour dîner. Et il a passé un très mauvais dîner en sortant toutes les 5 minutes avec l'œil fixé sur la porte pour voir s'ils n'allaient pas le verbaliser encore un coup. Et alors, Cloche me fait remarquer une chose qui est tout à fait intéressante. C'est qu'il m'a dit, mais au fond, si ce sont des policiers, ils sont là pour assurer la sécurité des citoyens. Or, ce monsieur, il a vécu pendant 2 heures dans un état d'insécurité totale.
C'est ça.
Donc il dit, des gens qui sont payés pour faire un travail qui font exactement le contraire, il faudrait les poursuivre dans les tribunaux pour abus de confiance, port illégal d'uniforme. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc je propose, on va lancer une révolution lustre cru. Après tout, chacun lance la révolution qu'il veut. Et donc vous mettez une casquette, parce que l'écharpe s'est déjà pris. Vous mettez une casquette lustre cru, vous baladez dans les rues, et moi, j'organise tout. C'est vous dire que ça va être quelque chose de très très sérieux. Et donc, on va faire des grandes manifs contre les lustres crus qui ajoutent à la sécurité des Parisiens. Voilà. Alors, la révolution lustre cru.
Il y a aussi une autre solution, c'est de faire livrer les choucroutes à l'intérieur de la voiture.
Ah ben ça, ça s'appelle du...
Et comme ça, ils ne peuvent pas mettre le PV, mais...
Comment on appelle ça aux États-Unis?
Driving.
Pour choucroute.
Le drivage. Voilà. J'ai appris également une nouvelle très intéressante, c'est que en ce moment, je ne sais pas où, je crois que c'est à Lyon, les exorcistes de France sont réunis pour... C'est formidable, je trouve. Pour suivre des cours de formation.
Par qui?
Ben voilà la bonne question.
Par qui?
Je sais pas qui. Des cours de formation pour l'utilisation du nouveau rituel d'exorcisme. Alors l'explication, c'est que, donnée par les radios bien sûr, c'est que l'ancien rituel, il avait près de 500 ans. Ah, bon, c'est trop vieux, quoi. Ouais. Faut arrêter les conneries, les mecs. Il faut que ce soit moderne. Relouqué, l'exorcisme relouqué.
Il est complètement vidé de son contenu.
Alors, vous connaissez la différence entre l'ancien exorcisme et le nouveau? Le nouveau marche pas.
Ah bah oui.
C'est ça. Le nouveau, c'est pas un exorcisme.
Ah oui, parce que Satan n'est pas au courant, je pense.
Et pourtant, il pourrait leur faire peur.
Hein.
Il devrait faire chanter. Comment il s'appelle le type qui a des dents en fer, là? Si, ce chanteur de rap qui a des dents en fer.
Des dents d'enfer?
Oui, Mathias, c'est pour ça.
Des dents d'enfer, hein.
Voilà. Et puis, quand même, je voudrais dire aux jeunes qu'il faut quand même, il faut qu'ils apprennent. S'ils veulent vraiment devenir les maîtres, il faut qu'ils apprennent. Par exemple, l'autre jour, il y a 15 jeunes qui se sont frités avec deux gars qui passaient dans la rue comme ça. Bon. Et ils les ont attaqués. Ils étaient 15 contre 2. On pouvait penser au départ qu'ils avaient quand même de bonnes chances de l'emporter.
Armés.
15 armées
d'armes par destination.
Et les, simplement, les deux, ils n'ont pas trouvé la plaisanterie suffisamment drôle pour se prêter au gag. Ils leur ont défoncé la tronche, littéralement. Il faut dire que ce sont deux légionnaires.
Ah, ils sont mal tombés.
Voilà.
Dont un ne mesure que 1m95 pour 110 kilos.
Ouais. Une crevette, quoi, voilà. Mais le plus... Je dis, c'est pas la taille qui fait la chose, parce
non,
que on a un ami
on a un ami qui fait la moitié moins, oui. Et qui en met 30 au tapis.
Ah oui.
Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est que les garçons, ils ont porté plein.
Oui. Alors le plus joli, c'est que j'allais oublier le gag final, c'est le plus beau de tout, c'est que les jeunes ils se sont barrés, puis sont les commissariats, ils ont dit, on a été attaqués par des racistes. Ils étaient deux.
C'était une bande de Gaulois supérieurs en nombre.
De Gaulois supérieurs en nombre. Il y avait un gros avec un chien.
Un chien féroce.
Voilà. Donc, ils ont mangé la raclée de leur vie et ça leur a donné des couleurs. Je trouve ça très, très, très bien. Je ne le cacherai pas. J'ai appris que, également, la société qui fabrique le Banania.
Ah oui.
Tu viens de Banania.
C'est vous ça.
Banania, petit déjeuner familial, Banania. Ils ont changé le slogan. Ils disent plus, il y a bon Banania. Parce que les nègres ont dit que c'était insultant. Raciste. Je pense que c'est un raciste. Enfin bon, il y a bon Banania, c'est raciste, voilà. Alors ils ont, ça sera plus il y a bon Banania, ça sera c'est vraiment de la merde Banania.
C'est des Africains d'ici, parce que moi, ceux que je connais, c'est...
Pourquoi vous en connaissez d'ailleurs?
J'en connais, quelques-uns sont restés en Afrique.
Ah bon?
Mon ami, le père
Bénédictin, ils étaient tous venus.
Il ressemble ni de près ni de loin à ce truc-là. Il s'en offusque pas, ça ne lui viendrait même pas à l'esprit.
Bah oui.
C'est un monde qui nous sépare de. Hein,
voilà, en tout cas, donc plus de Banania. Plus de Banania, il n'y a pas bon. Et puis, vous avez tous entendu le discours de M. Chirac, instaurant le 10 mai. Comme fête de la repentance à propos de l'esclavage.
L'esclavage.
Donc il va se repenter au moment le 10 mai. Alors moi je veux bien, mais je propose qu'on explique aux gens ce que ça a été l'esclavage vraiment.
Est-ce que ça n'a pas un rapport le 10 mai avec l'arrivée de Mitterrand? C'est peut-être ça le jour de l'esclavage, non?
Non, c'était parce que il doit y avoir une histoire de 8 mai comme ça. Comme Giscard avait déjà essayé de supprimer le 8 mai, qu'ils veulent supprimer, c'est quoi? C'est l'Ascension, hein?
Oui.
Le jeudi de l'Ascension. À mon avis, ça tourne autour de ça. Et alors, donc il faudrait leur donner des cours, c'est en disant bon, le 10 mai, cours obligatoire d'histoire de l'esclavage. Alors moi, je vous propose, je vais essayer de pas être trop long. Mais de vous donner le premier cours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'esclavage? On peut dire que du 12e au 15e siècle, la majorité des esclaves est issue des peuples slaves, d'où le mot tire son étymologie. Les femmes sont vouées à la prostitution, les hommes aux galères. La castration est courante. Peu y survivent. Les principaux opposants à ce genre de méthode sont les catholiques. Les principaux partisans sont les protestants. L'Angleterre concentre tous les signes de participation au grand programme d'esclavagisation. Sa monarchie, très tôt liée au dessein de la franc-maçonnerie, contribue à accentuer les souffrances d'un peuple contraint à un esclavage, aujourd'hui cadenassé dans les amnésies du politiquement correct. Pourtant, cet esclavage non répertorié comme tel s'est développé en Angleterre et s'est montré bien plus cruel que celui qu'ont subi les pauvres noirs d'Amérique. Alors là, il faut, accrochez-vous, parce que vous allez avoir des informations qu'on vous a jamais données ailleurs que dans le Libre Journal. En 1765, sur 23 enfants employés par l'entreprise St. Clement's Danes, 18 sont mortellement blessés. Et ça, c'était le travail des enfants. Les enfants esclaves. Horrible. 64 des 78 enfants ouvriers d'une entreprise d'Holborn subissent le même sort. À St. George's Middlesex, 16 enfants sur 18 meurent d'accidents du travail. Dans l'Angleterre du temps, le taux de mortalité de la main-d'œuvre enfantine est estimée à 90%. Les rythmes d'imposés de travail. La journée de travail dure en moyenne 16 heures. Les enfants sont employés à nettoyer des conduits de cheminée, dont, par souci d'économie, les foyers ne sont pas éteints. Les accidents sont nombreux, mal ou pas rémunérés. Les petits ramoneurs qui doivent mendier leur nourriture sont décimés par la tuberculose et le cancer des bronches. Si décidément. Dans The White Slaves of England, John C. Cobden décrit la cruauté des patrons. En 1833, dans une usine de Manchester, un garçon de moins de 10 ans, arrivé en retard, est contraint à porter des poids de 10 kilos autour du cou. D'autres, roués de coups, meurent. Dans les mines, des dizaines de milliers d'enfants servent de bêtes de somme, attelés à des chariots. Dans les cimetières, les épitaphes témoignent de l'âge des esclaves. William Smith, 8 ans, mineur, mort le 3 janvier 1871. Alentour, des enfants de 4 ans reposent dans d'autres petites tombes. Dans The Factory System Illustrated, William Dodd note qu'en 1846, plus de 10 000 ouvriers anglais, en majorité des enfants, ont été blessés, mutilés ou déchiquetés par des machines. En 1846, en 1840, un médecin de Stockport voit mourir une jeune fille, la chevelure happée par le roulement à vide d'une machine. John Randolph, virginien de Roanoke, voyage en Irlande et en Angleterre, accompagné de son serviteur. Il écrit « Je ne pensais pas être autant choqué par la misère des paysans de Limerick et de Dublin. Johnny est même fier d'être un esclave. » Écoutez bien ça. Johnny est même fier, Johnny c'est son serviteur, hein, est même fier d'être un esclave noir de Virginie. Il était horrifié de voir des taudis, des blancs mourant de faim. La vie des paysans du sud de l'Angleterre, témoigne l'historien anglais William Cobbett, est pire que celle des esclaves noirs américains. En 1834, les fermiers du Dorset tentent de former un syndicat pour préserver de la famine les veuves et les orphelins. Ils sont déportés en Australie, comme esclaves. Outre-Atlantique, le sort des esclaves blancs, premiers déportés dans le Nouveau Monde où l'appât du gain a aboli toute morale, est aussi inhumain. En 1645, dans un courrier au gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, un George Downing, conseille aux propriétaires qui veulent faire fortune dans les Antilles d'acheter des esclaves provenant d'Angleterre. En 1640, dans les plantations de canne à sucre des îles de la Barbade, actuellement au lieu de la Jet Society, 21 700 blancs sont recensés sur 25 000 esclaves. Vous entendez bien ? 25 000 esclaves, 21 700 blancs. Alors, aujourd'hui, la prétention de certains lobbies de confisquer l'histoire de l'esclavage au profit des Noirs, c'est scandaleux. C'est vraiment un mensonge historique. De 1609 à 1800, près des deux tiers des Blancs arrivent en Amérique comme esclaves. Ils constituent la grande majorité de cette main-d'œuvre. Il est moins difficile d'obtenir des esclaves blancs que des nègres. Les chefs des tribus africaines doivent être saoulés par les marchands de bois d'ébène. Les Noirs ne sont capturés qu'après des traques qui durent de longues semaines dans des conditions excessivement périlleuses à travers les forêts et les savanes africaines. Le rendement, entre guillemets, est très mauvais. La plupart des captifs meurent à bout de force avant d'arriver au bateau. Les pistes sont jonchées d'ochements. Une bonne partie des survivants succombera pendant la traversée. En revanche, dans les villes et la campagne irlandaise et écossaise, des kidnappers, que l'édition 1796 du Dictionary of Vulgar Tongue, Dictionnaire de langue vulgaire, définit comme personnes qui volent des enfants pour les envoyer dans les colonies, dans les plantations des Antilles, fournit à moindre frais des esclaves moins coûteux à livrer. Selon History of the United States d'Edward Channing, 10 000 enfants kidnappés ont été déportés aux États-Unis en 1670. 10 000. C'est-à-dire des enfants volés à leurs parents. Hein. Michael Hoffman évoque le négoce du capitaine Henry Brain en novembre 1670. Son bateau quitte la Caroline. Il est chargé de charpentes qui doivent être livrées aux Antilles anglaises en échange d'une cargaison de sucre pour Londres. Ici, le capitaine prend à bord 200 à 300 esclaves blancs à destination de la Caroline. Le trésorier de l'État de Virginie, George Sandys, atteste du peu de valeur d'un esclave blanc quand il en échange 7 contre 150 livres de tabac. Dans A True and Exact History, Richard Ligon mentionne une esclave blanche troquée en 1657 contre un cochon. Dans les Antilles anglaises, les 4/5 des esclaves blancs meurent dans l'année de leur arrivée. Dans Sugar and Slave, The Rise of the Planter Class in the English West Indies, l'historien Richard Dunn démontre que les plantations de canne à sucre des Antilles anglaises étaient le tombeau des esclaves blancs. Écœuré par de telles pratiques, le colonel William Brain écrit en 1656 aux autorités anglaises pour demander l'importation d'esclaves noirs. Mais l'esclavage des blancs est encouragé par les hautes instances politiques et la couronne. En 1615, le parlement anglais, soutenu par Charles Ier, donne tout pouvoir aux magistrats pour permettre les déportations des Anglais les plus pauvres. Sous le règne de Charles II, 1685. Même le pays de Galles n'est pas épargné. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des économistes insistent sur le bien fondé de l'esclavage des Blancs, main d'œuvre qui permet le développement des colonies anglaises et favorise l'expansion de l'Empire britannique. En 1618, les aristocrates adressent une pétition au Conseil de Londres, exigeant que les enfants qui errent dans les rues soient déportés en Virginie. En janvier 1620, des enfants tentent de s'enfuir de la prison de Bridewell. Une mutinerie éclate, on craint que le mouvement se généralise. Un courrier est envoyé au secrétaire du roi, Sir Robert Knowlton. Le 31 janvier, le Privy Council autorise à titre d'exemple le recours aux sentences capitales. Cela durera jusqu'au 19e siècle, époque à laquelle, selon Milchild de Holland, les propriétaires d'usines de Nouvelle-Angleterre militent pour l'abolition de l'esclavage noir, mais exploitent sans vergogne des enfants blancs. Ce n'est pas une attitude nouvelle. Dès 1652, les propriétaires des plantations ont obtenu la légalisation et l'extension du kidnapping des blancs. Les villes du Commonwealth voient les plus pauvres accusés de mendicité partir aux chaînes aux pieds pour l'Amérique. Les juges perçoivent les pots de vin liés à ce trafic. La part de Sa Majesté n'est pas la moindre. Je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure. Donc, première chose, les premières victimes de l'esclavage, ça a été les Blancs. Et les Anglais Blancs, les pauvres Anglais Blancs, ou les Blancs pauvres Anglais, ou les Anglais pauvres Blancs, qui étaient enlevés par la couronne et transportés à la colonie, c'est-à-dire en Amérique, pour assurer une main-d'œuvre de qualité et résistante à ces gens-là. Et maintenant, qui est-ce qui faisait ce trafic? Alors, je vais simplement vous lire, et vous en tirerez les conclusions qu'il vous plaira d'en tirer, la liste des principaux propriétaires de bateaux négriers qui, de 1702 à 1806, ont assuré le transport des esclaves vers la colonie. Le Joseph & Rachel, appartenant à Joseph et Samuel Frazon. Le Mary & Abigail, appartenant à Abraham de Luciana et Justus Bosch. Le Young Catherine, appartenant à Mordecai Gomez et Rodrigo Pacheco. Le Lydia, le Barbados, le Charming Sally, le Anna, le Polly, le Dolphin, le Prince Orange, le Charming Polly, appartenant à Rachel Marx. Le Drake, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le Seaflower appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le General Well, le Defiance, le Perfect Union, le Dolphin, le Confirmation, le Diamond, le Rising Sun, le Lord Howe, le Rabbit, appartenant à Nautal, Isaac et Abraham Hart. Le Charming Betsy appartenant à Samuel Levy. Le Two Sisters appartenant à John Franks. Le Deborah appartenant à Samson Levy. Le Gloucester appartenant à Moses et David Franks et à Isaac Levy. Le Delaware appartenant à Moses et David Franks. Le Jane à David Sexas, le Rebecca à John Bueno, le Anne à James DeWolfe, le Clongally et le Postillon à Isaac Levy, le Orleans et le Dreadnought à Eamon Levy, le Duke of Cumberland appartenant à Judah Hayes, le Duke of York appartenant à Jacob Franks, le Betsy à Samuel Jacobs, le Pearl à Emmanuel Alvarez Correa et Moses Cardozo et Abraham Hart, le Marie et Anne appartenant à Moses Levy et le King George appartenant à Naphtali Hart. Alors moi je propose que les Africains qui se plaignent d'avoir été victimes de l'esclavage, de la déportation, enregistrent ce genre de choses et se souviennent que ce sont des chefs de villages nègres qui ont vendu des gens de leur propre village ou des villages voisins à des trafiquants qui les emmenaient jusqu'à la côte. Ces trafiquants étaient des trafiquants arabes. Et à la côte, je viens de vous donner la liste des bateaux qui les prenaient pour les emmener en Amérique. Donc je vois vraiment pas ce que la France a à foutre dans cette histoire. Je vois vraiment pas ce que nous, Français, nous avons à foutre dans cette histoire d'esclavage. Et je me demande pourquoi un président de la République qui est un fou furieux, qui est devenu un démon, se permet de nous infliger une repentance obligatoire pour un crime dans lequel on n'a strictement rien à foutre. Voilà. C'est vrai. Moi, je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe dans ce pays de dingue où on raconte n'importe quoi à n'importe qui, où tout le monde marche. On avale ça, on dit oh là là, oui, les pauvres esclaves. Bien sûr, c'est pas marrant d'être un esclave, je veux bien le croire, mais c'est pas moi qui les ai foutus en esclavage. C'est pas moi qui suis allé les chercher dans leur village. C'est pas moi qui les ai transportés à la côte. Et c'est pas moi qui étais propriétaire des bateaux qui les ont transportés en Amérique. Et une fois que j'étais en Amérique, c'est pas moi qui étais propriétaire des distilleries d'alcool que les mêmes propriétaires de bateaux avaient fabriqué pour payer avec de l'alcool les esclaves qu'ils faisaient importer. Voilà.
C'est effrayant.
Ça, jamais personne ne le dit. Jamais personne ne le dira. Et vous le trouvez dans le livre journal si vous êtes...
Vous savez ce que le tsar avait dit à Napoléon après l'entrevue après Austerlitz ? Il avait dit c'est des marchands de chair humaine. Napoléon avait dit, Majesté, promettez-moi que vous ne ferez plus la guerre. Il avait dit, c'est les Anglais, c'est des marchands de chair humaine. Ouais. Les roast beef, hein, c'est des Indiens, leur nom, quand même. Hein.
Voilà un petit peu d'histoire révisée. Quelque chose, un commentaire, une réflexion.
Je crois que M. Chirac, il fait que imiter d'autres qui ont inventé le système de faire repentance sur la poitrine des autres.
Mmh. Cette allusion à qui, Vermeling, Vigny ?
Je ne veux pas être plus précis.
Pas plus précis. Je ne veux pas se fâcher avec la hiérarchie. Mais... Voilà. Je vous recommande la lecture du Libre Journal parce que il y a une photo. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo, Irina Pilipou ? Vous l'avez vue, non ? À la une du journal ? C'est une photo, non, c'est assez exemplaire du caractère à la fois de religion d'amour, de tolérance et de paix de l'islam. Hein ? Moi, je trouve que c'est...
Oh, c'est sympa.
C'est sympa, hein,
ouais.
Si vous pouvez...
C'est pas du sadomaso, pourtant. Hein.
Non, c'est une
kinésithérapie ancienne.
Une jeune femme en...
Le bâton gymnastique suédois transformé par la civilisation.
Ça se passe dans la cour d'une mosquée à Aceh, en Indonésie, où devant une grande foule, il y a un type avec une canne qui est un officier de la charia, le code de jurisprudence musulman, qui est en train de foutre une raclée à une pauvre fille... c'est même pas en tchador, c'est en burqa blanche d'ailleurs, qui est à genoux et qui est en train de se prendre une bonne raclée à coups de canne. Et la légende nous dit, un officier de la charia donne des coups de canne à une femme qui est simplement demeurée dans la maison de son petit ami à Aceh, en Indonésie. Voilà. Sympathique. Ça, tout ça est tout à fait sympathique. Bien, ben je crois qu'on a fait le tour de quelques questions urgentes et importantes. Oui, on a eu des détails sur le violeur de la petite Charlène, vous savez, la petite fille de 9 ans qui a été...
Oui.
C'est pas un Français, hein, je vous le dis tout de suite. Ou alors depuis quelques jours, parce que...
Ah.
Non, il est venu en France... en traversant la Méditerranée.
Mmh.
Voilà. Il s'appelle Kamel Tahar. Il est algérien et il est récidiviste. Alors, il est arrivé en France depuis 5 ans. En 5 ans, c'est un récidiviste du viol d'enfants. C'est quand même pas mal. Hein ?
Il a été arrêté combien de fois, déjà ?
Au moins une fois. Je pense qu'on a dû le libérer avec les excuses du jury. Et effectivement, je me souviens que quand on a... donner l'information, on a dit on recherche un individu de type européen.
Absolument.
Vous souvenez
ça ? Ah
ouais. Et je m'étais dit, ça c'est une chose qu'ils font très très rarement, ils donnent jamais le type. Et donc ça doit être effectivement un européen. Absolument. Pour qu'ils le disent, qu'ils insistent dessus, ça manque de bol, mais voilà, il y a erreur sur le... C'est pas un Européen. Pas encore, ça va venir, attendez, parce que la Turquie, le Maroc, tout ça, ça va devenir... Mais pour l'instant, c'est pas encore un Européen. Et un auditeur nous dit, n'oubliez pas les esclaves européens enlevés par les barbaresques en Méditerranée et revendus par leurs propriétaires aux prêtres catholiques qui avaient fondé les Frères de la Merci. Oui, bien sûr, il faut pas oublier ça. Mais enfin, j'étais prudent parce que je crois que c'est Le Pen qui avait été condamné pour avoir évoqué la question des barbaresques. Donc moi, je suis prudent, je veux pas avoir des procès et tout.
Ça allait même plus loin. Il y avait un ordre religieux qui se substituait aux esclaves en Afrique pour les libérer. Un ordre catholique.
Et une auditrice nous dit, mon arrière-grand-mère travaillait 12 heures par jour à l'usine des allumettes de Pantin entre 1860 et 1880. C'est une forme d'esclavage, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, ces gens-là avaient quand même une espèce de liberté, tandis que ceux qui étaient enlevés et transportés aux États-Unis, on les traitait exactement comme des animaux. Voilà. Les références des textes que je viens de lire, oui, ben je les ai donnés à mesure que je les lisais. C'est un peu, oui, c'est un auditeur qui demande ça. C'est un peu long de vous les donner. Ce sont des bouquins. D'abord, c'est long. La première chose, c'est que ce sont deux articles parus dans le Libre Journal, numéro 313 et 314. Et ensuite, ce sont des bouquins parus aux États-Unis et qui ont été lus et recensés par un collaborateur du Libre Journal qui s'appelle Monsieur Laurent Blanzy. Blanzy. Voilà. Qui a fait un très très beau travail, mais si vous voulez les deux exemplaires, vous pouvez nous les commander. J'attire l'attention des amis qui voudraient lire le Libre Journal sur le fait qu'on peut commander un exemplaire du Libre Journal en envoyant 5 euros, mais je suis obligé de vous supplier de ne pas envoyer de chèque, parce que traiter des chèques de 5 euros, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc, mettez simplement un carnet de timbres. Je sais bien que ça revient un peu plus cher, puisque ça, un carnet de timbre, ça doit coûter 5,30 €.
Oui.
Voilà. Oui, on n'a plus le droit de dire « Diabon Banania », mais il ne se prive pas de dire « Diabon la France ». Oh, bah c'est mal. Non, mais, franchement, on vous dit que c'est pas raciste, puis alors... non, mais franchement, tout ça est tout à fait déplacé. Bien, alors tournons-nous maintenant vers un pays qui est moins triste... que celui que nous venons d'évoquer, vers un sujet qui l'est beaucoup plus, ou tout au moins autant, c'est l'affaire de Chikatilo. Alors on a appris il y a quelques années, en 92, c'est ça, 92-93, l'arrestation d'un garçon, d'un homme qui s'appelait Andrei Romanovitch Chikatilo. Pardon. Et qui a avoué 53 meurtres. Mais Irina Pilipchuk, avec Jean-Pierre Fabre, a écrit un livre sur ce personnage. C'est un livre assez terrifiant. Et d'ailleurs, le personnage lui-même fait l'objet d'un film. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre, Irina?
Ce n'est pas été par hasard. Un jour, c'était personnel, un jour, j'ai rencontré la femme d'André Chikatilo. Donc, elle m'a raconté l'histoire de sa famille. Et ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment touché. Et dans ma tête, ça reste toujours si un jour, j'ai l'occasion pour raconter tout le monde comment ça marche cet homme. Sa histoire, j'aime bien raconter tout le monde. Donc.
Et vous avez fait une enquête, vous avez rencontré les. Vous avez rencontré les différents personnages de cette affaire?
Oui, bien sûr. Et plus, il était comme moi professeur. Il travaillait comme moi professeur. Moi, je suis professeur maths et physique. Et lui, il était professeur de la langue russe. Donc, ça m'a touché vraiment. Et après, j'ai travaillé beaucoup, j'ai été dans cette école, j'ai parlé avec ses collègues qui travaillaient cet an avec lui, j'ai parlé avec ses élèves, j'ai parlé avec quelqu'un qui le connaissait bien, j'ai travaillé à Suif du KGB, donc... Nous avons travaillé vraiment beaucoup.
Dans les archives du KGB.
Pendant la Lausanne. Donc, en fait, le livre qui arrive.
Alors, ce qui est très, très frappant, c'est que ce livre fait tout à fait penser, enfin, la carrière, si j'ose dire, de Chikatilo, ça évoque l'Union soviétique. C'est-à-dire, c'est curieux que l'histoire arrêtée au moment où l'Union soviétique s'effondre.
Oui. Mais je pense que c'est par hasard, je pense que c'est comme un symbole. Parce que cette année, 91, l'Union soviétique est cassée. И la прудит до коммунизм, c'est Чикатило, qui aussi va finir sa vie. Mais je peux dire franchement, parce que je connais cette système bien, parce que j'étais communiste et mon père était communiste, donc ma famille était comme une famille communiste. C'est seulement dans notre pays, dans notre régime, dans le régime communiste, c'est possible quand l'homme, pendant 10 ans, il fait mal, il tue plus que 50 personnes. Aujourd'hui, vous avez critiqué beaucoup de France, mais je peux dire franchement, j'adore votre pays. J'adore tous vous. Et quand quelqu'un dit, quand je t'en dis chaque jour quand même, ah, ça fait mal, il n'est plus démocratie ici, le gouvernement marche mal, vous ne pouvez comment il faut dire, c'est difficile pour vous imaginer comment c'était vraiment mal chez nous. Pendant l'époque communiste. Et si Чикатило arrive dans ce monde, donc évidemment parce que c'était comme ça chez nous. C'est le communiste qui prédit comme ça l'homme, qui fait n'importe quoi dans sa vie pendant 10 années. Et il vit. Police n'arrête pas, il ne cherche. Il cherche, mais ce n'est pas vraiment trouver quelqu'un. Donc, c'était.
Ça montre bien le non-fonctionnement, le mauvais fonctionnement d'un système. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression que d'une part, la vie humaine n'a aucune valeur.
Oui.
Parce que bon, on trouve des morts, mais des morts en Union soviétique, il y en a eu des millions. Voilà. Et puis ensuite, on a l'impression que c'est des fonctionnaires qui, de toute façon, seront payés, ou les gens, ils sont complètement désintéressés de, il y a plus de sens de l'humain. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est complètement contraire à la culture russe, à ce qui fait l'âme russe, c'est ce désintérêt pour l'autre.
Oui, vous savez, chez nous, c'était comme ça, notre gouvernement, il fait semblant au pays,
oui,
et on travaille aussi semblant.
Il fait semblant de travailler, oui, ça c'est
vrai. Oui, c'est vrai, c'était vrai. Vous savez, parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler comme professeur à l'école, et ça me fait mal vraiment parce que moi, avec les enfants, j'ai oublié de travailler. Je ne peux pas rester comme ça, sans travailler. Je parle, je donne l'explication. Et tous mes copains qui finissent la même université, qui font aussi grand institut, et rentrent dans une grande entreprise. Ils commencent à parler, ils commencent à prendre café, ils commencent à aller dans la rue, faire la course. Non, c'est vrai. Nous avons gagné même salaire, même l'argent. Mais moi, je travaille beaucoup avec les enfants. Je donne ma cœur, je donne ma envie, je donne ma sentiment. Et à côté, tous mes copains, ils travaillent, bien sûr, ils travaillent. Ils entrent dans la...
Ils font semblant de travailler.
Oui. Mais ils ne font rien, ils ne sont pas moqués. C'était comme ça. Et la milice, à cette époque-là, ils travaillent aussi comme ça. Ils travaillent comme ça.
Ouais.
Il gagne son salaire, c'est tout, il se les fout.
Là, je vais me tourner vers Jean-Pierre Favre, qui a une expérience, lui, de, étant donné son passé professionnel. On peut peut-être le dire, non?
Absolument, oui.
Parce que Jean-Pierre était officier de gendarmerie, commandant de gendarmerie.
Absolument.
Il a dirigé une brigade. Donc, tu as fait des enquêtes, tu as travaillé sur le terrain, tu vois. Est-ce que, qu'est-ce que tu retiens sur le plan de la technique policière? Du travail que tu as fait pour ce livre.
Alors, moi, je pense que ce que vient de dire Irina est le point fondamental. C'est un peu l'exemple des trois singes, n'est-ce pas? Je mets les mains devant les yeux, je mets les mains devant la bouche, je mets les mains devant les oreilles. C'est-à-dire que le but de ces gens, c'est de pas avoir de problème. Donc, à partir du moment où on leur amène des problèmes, ils sont pas d'accord. Il y a plusieurs exemples dans ces pages où on voit, par exemple, une mère aller à la milice et dire « Mon enfant a disparu ». On lui dit « Mais madame, reviendra demain ». Et à un moment donné, elle embête tellement que c'est elle qui va avoir des problèmes et qu'elle est obligée de partir parce qu'elle a peur de se retrouver, parce qu'on commence à lui poser des questions bizarres. « Mais attendez, mais pourquoi vous cherchez tellement votre enfant ? Mais comment, c'est pas vous, par hasard, qui auriez enlevé votre enfant ?» Donc, le problème est très simple. C'est d'essayer d'avoir le minimum de travail. Ça, c'est le premier point qui me paraît quand même important par rapport, je dois reconnaître, au travail considérable, je crois qu'on peut le dire, que fournit la police ou la gendarmerie. Le deuxième point, c'est que le parti est partout. Le parti est partout, et comme le parti est partout, et que par exemple Chikatilo était membre du parti, à partir du moment où il montre une carte du parti, il est évident que... On va pas le soupçonner, on va moins le soupçonner. Il y a quand même des choses assez extraordinaires dans ce livre, notamment pour lors de son premier meurtre, où évidemment on devait le trouver très rapidement, puisque une dame, je rappelle, le premier meurtre a lieu en 1978, donc il est né en 1936, 1978 premier meurtre, et le premier meurtre, il tue une fillette de 9 ans. Cette fillette de 9 ans tuée, il se trouve qu'une dame qui passait par là l'a vue à l'arrêt d'un bus, parce que cet homme tuait généralement à l'arrêt des bus, des tramways, des trains, et cette femme est capable de faire un portrait robot, qui est d'ailleurs très bien exécuté. Et la milice parcourt les rues de la ville de Charty, qui est une rue à côté de, enfin qui est une ville à côté de Rostov sur le Don. Et en parcourant les rues et les établissements, ils tombent sur un établissement scolaire où le directeur de l'établissement scolaire voit la photo et dit "Mais attends, c'est mon professeur. Ah, oui. C'est Chikatilo, c'est mon professeur." Donc très content, le milicien va et dit "Voilà, on l'a trouvé." On lui dit "Non, c'est pas lui." C'est pas lui, parce qu'on a trouvé dans la rue, on a retrouvé la gamine, un monsieur qui s'appelle Kravchenko. Et ce Kravchenko, il a commis autrefois des meurtres. Tandis que Chikatilo, lui, il est membre du parti. Et si vous voulez, il est en costume, il a une cravate, il est bien habillé. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ça va même aller plus loin, puisque Chikatilo, ayant une maison dans cette rue, est convoqué aussi. Et quand il arrive dans cette rue, il a fait deux erreurs dans ce meurtre. Il a laissé des traces de sang dans la rue et il a laissé la lumière allumée chez lui. Et une de ses voisines lui dit « Ah, monsieur Chikatilo, comme c'est gentil d'avoir laissé la lumière allumée. » Et il commence à être gêné quand même par ça. Deuxième chose, il n'a pas dit à sa femme qu'il avait cette petite maison. Quand vous savez qu'à cette époque, les familles vivaient plusieurs dans une maison, pour que lui ait une deuxième maison, vous voyez de quoi il pouvait bénéficier. Bon.
Alors, Jean-Pierre, je vais demander on va faire une chose que j'aime pas, mais on peut pas faire autrement, parce que j'ai au téléphone le marquis qui veut faire une toute petite intervention, et puis après je présente mes excuses aux auditeurs de rompre le récit passionnant que tu nous fais, mais j'ai promis au marquis de lui donner la parole pour qu'il explique qu'on n'est pas fâché. Allô, Marquis ?
Allô, comment allez-vous ?
Très bien, écoutez, on est ici réunis avec quelques amis, comme parfois le mercredi soir, et on est en train de parler d'un sujet passionnant, qui est l'affaire de Chikatilo. Vous savez, c'est un criminel en série soviétique, qui est un personnage symbolique, parce que c'est à peu près une incarnation de ce qu'a été la Russie soviétique. Bon, alors... on m'a fait le reproche, un des auteurs de ce livre, enfin l'auteur principal de ce livre, qui est Irina Filipchouk, m'a fait, à mon couvert et fort gentiment, le reproche de dire du mal du régime français, du gouvernement français. Il m'a dit, on voit bien que vous n'avez pas connu le gouvernement soviétique.
Ah,
voilà. Mais je veux lui montrer qu'on aime quand même la France du fond du cœur, au moins autant qu'elle.
On critique comme ça.
Au moins autant qu'elle. Et alors, je suis content de vous avoir pour que vous nous disiez quelques mots de votre visite aux hospices de Beaune.
Alors d'abord, je vous salue. Je salue nos amis. Je salue Victoria. Et puis, je suis désolé de vous interrompre un peu comme ça, mais je vais remonter dans le train tout à l'heure pour rentrer à Paris. J'ai effectivement visité une exposition qui s'appelle « Le trésor des cathédrales » qui se déroulait en trois points, à Beaune, dans une église, aux hospices et au musée. Et j'ai eu la surprise de voir tout à l'heure une nuée, vous m'entendez bien, une nuée de jeunes séminaristes en soutane visiter cette exposition et baver d'admiration devant des chasubles du XVIIIe siècle, devant des crosses d'évêques, etc. Et j'ai parlé avec eux en leur disant « Vous êtes la relève », ils étaient tout contents. C'est déjà ça, ça m'a fait énormément plaisir.
Mais ils sont c'est pas des gens de la fraternité
Non, je ne sais pas. Alors j'ai pas posé la question parce que je voulais pas mettre en porte-à-faux, mais c'était des vrais. Et puis alors bien sains, beaux, propres, gentils, charmants et puis souriants. Mais ils étaient au moins 42, 43, à peu près. Enfin, bon, qui visitaient cette exposition. 43 soutanes d'un coup dans un musée, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est impressionnant. Et une autre chose qui m'a fait plaisir, aux hospices de Beaune, on a rénové un peu les salles à l'identique. Et savez-vous ce qu'on a fait ? Allô ?
Oui, nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes muets d'admiration et d'intérêt, oui.
Eh bien, dans la grande salle où il y avait les malades à Beaune, on a tout refait, tout arrangé. Et on a mis beaucoup, beaucoup de statues deux religieuses habillées en religieuses, pour que tous les visiteurs sachent bien que c'était l'église qui s'occupait des pauvres.
Ah, c'est bien. C'est voilà. Dans cette grande salle qu'a été tournée la fameuse scène de la grande vadrouille, non?
C'est ça. Voilà. C'est ça. Et bien, tous les 3-4 lits, on a mis une statue de cire d'une religieuse qui s'occupait, etc. Donc les gens qui ne connaissent rien à rien, en sortant de là, disent « Ah, c'est quand même les bonnes sœurs qui faisaient le sale boulot. » Et ça, c'est très important. Voilà, je voulais vous dire ça.
Et l'exposition vaut la peine d'être visitée?
Très honnêtement, ça vaut peut-être pas la peine de faire le déplacement, parce qu'il n'y a pas énormément de choses, puis c'est compliqué parce que c'est sur 3 lieux différents.
Ah oui, alors effectivement, il faut vraiment être un passionné.
Voilà.
Du moment que les séminaristes y vont, c'est l'essentiel.
Voilà, et puis je suis dit, en disant que ce matin, quand même, j'ai pensé à vous, parce que je suis allé boire un petit coup à Claude Bougeot avant d'aller à Beaune.
Quel bonheur. Voilà. Alors, il est toujours aussi bon?
Ah, toujours très...
Parce que je redoute beaucoup la concurrence de Coca-Cola pour...
Alors là, ça me... Vous comptez sur moi pour continuer à me cuver de Claude Bougeot.
Merci Jean-Paul de nous avoir appelé.
À très très bientôt et merci de m'avoir accueilli quelques instants.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Voilà, quelques nouvelles de la belle France. Vous voyez, Irina, qu'on a aussi quand même un peu l'amour du pays. Il ne faut pas être trop inquiète. Alors, Jean-Pierre, je rends la parole. Donc, tu nous expliquais à quel point la police, la milice, était restée aveugle, alors, ou volontairement, ou par négligence, ou par sottise, ou en face des preuves surabondantes de la culpabilité de Chikatilo.
Oui, je pense qu'il faut aussi comprendre autre chose. C'est que en Union soviétique à cette époque, mais je pense qu'on pourra demander à Irina tout à l'heure, c'était très facile de trouver l'assassin. Parce que l'assassin, de toute façon, ils avaient 5 jours, une semaine, pour en disposer. La manière de trouver, c'était tout simplement de le faire battre à l'intérieur de la prison, parce qu'il y avait à ce moment-là des personnes qui étaient mises en même temps que lui en prison et qui se faisaient un plaisir de lui foutre des raclées, jusqu'au moment où il trouvait que c'était plus intéressant de parler avec la ministre que de rester à l'intérieur de la cellule, ou tout simplement parce que c'était impossible, parce que c'était pas un bon communiste, et que si par conséquent c'était pas un bon communiste, tous les moyens étaient possibles pour le faire parler. Les gens étaient trouvés parce qu'on les faisait parler, et si on se trompait, ben c'était pas grave. Si c'était pas lui, c'était pas grave. On avait trouvé quelqu'un. L'essentiel, comme partout.
Ah ben, c'est drôle, ça me fait penser. Pardon, mais ça me fait penser. Vous vous souvenez, vous avez vu cette émission, on en avait parlé. Ça se passait, je sais plus quel pays africain, où le chef de la police arrête un type, il l'accuse de vol ou de je ne sais quoi. Et on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez comme preuve? Il dit, oh, non, on n'a pas tellement besoin de preuves. On a des très bonnes méthodes pour faire avouer.
Voilà. C'est exactement.
Et il massacre mais on en était ému, et c'était ils l'ont tellement battu qu'il a fini par mourir d'ailleurs. Tout ça sous les caméras, sous l'œil des caméras. Et on sentait bien que c'était quelque chose de parfaitement normal. On lui tape dessus. Or, c'était des méthodes qui étaient utilisées chez nous, mais il y a quand même 5 ou 6 siècles. Donc, de là à penser qu'on aurait 5 ou 6 siècles d'avance, bon, non, je franchirais certainement pas ce pas.
Même. Hein,
mais il faut reconnaître que bon, c'est quand même extraordinaire de penser que ce sont des méthodes qui ont été en usage dans un pays
il y a 20 ans
moderne, enfin, même si le modernisme soviétique était quelque chose de particulier, enfin, ils envoyaient des hommes dans l'espace quand même.
Oui, mais ils envoyaient
pas pour les faire avouer.
Non.
Alors, sur le plan de la technique policière, ils sont vraiment... c'est vraiment nul ou par rapport aux Français, non?
Supérieurs.
Ils sont pas nuls, mais d'abord ils n'ont pas de moyens. Par exemple, le problème du profilage est une chose qu'ils ne connaissent pas. Ce sont quand même les Américains et les Anglais qui ont mis les tueurs en série sur la sellette grâce au profilage notamment. Ça, c'est une chose qu'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs Chikatilo, pour la première fois, où un enquêteur va se dire, tiens, je pourrais peut-être aller voir un psychiatre et lui présenter tous ces cas, parce qu'il doit y avoir quelque chose de bizarre, il va peut-être pouvoir m'en parler. Il faut pas oublier en plus que pendant très longtemps, on ne sait pas si c'est le même ou pas le même, mais c'est vrai qu'il y a quand même des côtés symboliques qui font qu'ils sont assez perturbés. Il ne faut pas oublier autre chose, c'est que le tueur en série, c'est un phénomène capitaliste pour les communistes. Parce qu'un tueur en série, c'est un type qui ne peut pas, dans un état de bonheur, comment voulez-vous qu'un type se mette à tuer comme ça 53 personnes ? À la rigueur, qu'il en tue une parce qu'il a un moment de folie où il a pris un peu trop de vodka, ok, mais 53 personnes, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un phénomène capitaliste. Donc on n'étudie pas ça. Donc il y a tout un pan comme ça de la police qui n'est pas pris en compte. On se trompe, par exemple, de groupe sanguin parce que à ce moment-là, l'Union soviétique ne sait pas que le groupe sanguin et le groupe sanguin par le sperme, trouvé par le sperme, peut être différent. Donc pour eux, c'est le même groupe sanguin. C'est vrai qu'en règle générale, c'est le même groupe sanguin, mais ça peut être différent. Donc on va, quand on arrête aussi Chikatilo plus tard, on se dit, bah non, mais c'est pas le bon groupe sanguin. Donc il y a un retard considérable, et en plus, quel est l'intérêt? De toute façon, on va trouver quelqu'un, on va l'accuser, il va se condamner, il va s'auto-proclamer lui-même d'ailleurs, très souvent c'est moi qui l'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui proclament que c'est eux qui l'ont fait, et ils préfèrent le dire plutôt que de rester aux mains de la milice. Donc tout ça fait qu'il y a une pesanteur, qu'il y a un système qui se met en place, et qu'à partir de là, on trouve très facilement, on a des accusés à l'appel.
Est-ce qu'il y a une opinion publique, au moment de l'affaire, qui s'intéresse à cette affaire? Est-ce que les journaux en parlent? Est-ce que les gens en parlent dans la rue?
Cette époque-là, je me souviens bien, parce que j'ai eu l'âge de 17 ans et plus. Donc, ça fait peur pour tout le monde. Ça fait peur. Et comme vient de dire Jean-Pierre, les télévisions, les radios, ils ne parlent pas. Parce que ça n'existe pas chez nous.
C'est ça.
C'est notre pays qui
c'est contraire à la...
Oui. Donc, ça n'existe pas. Après, ils ont obligé de parler parce que c'était vraiment un cauchemar chez nous. Parce que même moi, dans notre ville, beaucoup d'enfants ne sortent plus. Ils restent à côté de sa famille. Parce que ça continue pendant 10 années. 10 ans, c'est pas un an. Et c'est 53 personnes, petites filles et garçons. Mais... ça fait peur.
Mais lui, il a expliqué ses raisons. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a reconnu, les crimes?
Oui, pas tout de suite. Il n'a pas reconnu tout de suite.
Il les a reconnus au bout de quelques jours.
Oui, c'est pas possible.
Et ce qui est extraordinaire, mais on retrouve ça dans le phénomène des serial killers, c'est qu'il était capable de se souvenir des endroits exacts, même 10 ans après, ou 5 ans après, où il avait enterré.
Chaque prénom.
Il leur a dit, par exemple, non, là, vous vous trompez. Il leur a dit, par exemple, je vous ai raconté tout à l'heure le premier meurtre, 1978. Mm-hmm. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait été accusé à sa place. Et qui a été tué, c'est-à-dire qu'il a été condamné à mort et exécuté. Et donc, c'est lui qui leur a dit, non mais, attendez, en 78, machin, Léna, machin, c'est moi qui ai tué Léna. C'est pas Kravchenko. C'est moi. Donc, il a fallu refaire. Vous voyez la tête du milicien allant dire à la mère de Kravchenko, excusez-moi, mais on s'est trompé.
Je ne veux pas trop les gêner à l'époque. Encore qu'à l'époque, c'était déjà...
Ça les gênait un peu parce que c'était la fin du communisme. Ouais. Donc, on commençait quand même à s'ouvrir à ce moment-là.
Docteur Plantet, quel regard vous portez-vous sur un personnage comme ça et sur les circonstances de cette affaire? Parce que c'est quand même très particulier. Ça se passe en Union soviétique, à une époque où l'Union soviétique est en train de vaciller, enfin, est en train de changer.
Oui.
Et moi, je trouve qu'il y a une charge symbolique formidable. Oui, c'est un personnage emblématique.
De toute façon, ça peut s'analyser à plusieurs degrés. Ça peut s'analyser sur un plan, on va dire, de la neurophysiologie comportementale, pour voir comment on peut expliquer. Il y a des éléments tout à fait éclairants hein, dans le début du bouquin. Il n'y a pas énormément de choses sur la génétique de la famille et tout, mais il y a des petits éléments que j'ai relevés qui sont déjà qui indiquent un désordre majeur. Hein. Deuxièmement, on peut aller un peu plus loin, hein, c'est-à-dire dans le domaine un peu supérieur à la neurophysiologie, qui est le principe du plaisir et de la douleur, hein, qui peuvent s'impacter dans le cerveau et donner des choses absolument abominables, on peut en reparler 5 minutes si vous voulez. Puis au-delà, il y a l'aspect que on est obligé de considérer dès qu'on rentre dans les maladies mentales. C'est qu'au bout d'un moment, ça suffit plus. Vous avez beau sortir d'Harvard, de San Diego, de Chicago, il y a des machins qui peuvent pas se comprendre. Même les névroses obsessives compulsives, par exemple, pour dire qu'il y a des petits éléments qui ressemblent.
Même ça, vous avez beau trouver des
engrais préternaturels.
Les gens qui l'ont, vous avez l'impression qu'il y a un élément totalement préternaturel. Même chose d'ailleurs dans les dépressions nerveuses, hein. Dans les dépressions mélancoliques gravissimes où les gens finissent par s'arracher les yeux, hein. Bon, par exemple, hein. Moi j'avais un professeur de psychiatrie pour qui, donc j'étais assistant des hôpitaux, m'a dit qu'un jour il est rentré dans une cellule d'un malade, il avait ses deux yeux dans la main. Si ton œil est une occasion de péché, arrache-le-toi. Bon. Mais la culpabilité qu'ont certains déprimés et qui vous disent, j'ai détruit le monde entier. Vous dites, mais c'est Adam qui parle après le péché. Hein. Donc, dans un cas comme ça, il y a quand même cette destruction, ce cannibalisme, ce repaître de la vue des entrailles, de la destruction, de l'émiettement, hein, de la division de la matière vivante. Ça, c'est diabolique, quand même. Diabalein, celui qui lance à travers, qui découpe en morceaux, hein, ou qui casse les liens. Bélial, c'est ce que ça veut dire. Hein. À un moment donné, on voit que ce type, il était prisonnier de quelque chose qui probablement le dépassait complètement, tout en étant... On voit bien, par exemple, dans ses désordres sexuels, dans les troubles du sommeil qu'il avait, des cauchemars abominables, d'ailleurs, qui prenaient des proportions qui sont un peu plus que du cauchemar. Hein. Plus une tendance manifeste, on voit qu'il était d'une timidité incroyable, Enfin, on n'a pas entendu ça une neurochimie, mais quand il avait des phénomènes de plaisir, c'était à l'inverse de ce qui se passait des gens normaux. C'est-à-dire, c'est des giclées d'adrénaline épouvantables. Et là, ça nous ramène aux systèmes les plus dangereux, les systèmes d'alarme du cerveau qui, quand ils sont poussés à l'extrême, deviennent destructeurs. C'est comme un chien de garde devenu fou, si vous voulez. Hein. Alors, on sait, parce que il y a eu des études très poussées, notamment dans l'armée américaine, sur les assassins violents, hein, comme l'était ce type. Hein. On sait, par exemple, qu'ils ont la sérotonine qui est écroulée, la sérotonine qui contrôle aussi le sommeil, les satisfactions, la mémoire, les machins, enfin toutes ces choses-là. Hein. Là, on voit bien, par exemple, qu'il y a un rôle de l'image, parce qu'il semble avoir dans l'enfance joui de la vision des tripes, du sang, des organes, mais il y en a des gens comme ça, hein. Il y en a même peut-être plus qu'on croit, mais il y en a certainement, puisque dans la population générale, il y a quand même un goût plus prononcé pour les films d'horreur découpage que pour les études de la phénoménologie d'Heidegger, par exemple. Hein. Bon, hein, ça c'est clair. Hein. Mais ça reste contrôlé. Et là, ça prend des proportions terrifiantes. Et en même temps, on a l'impression que le système a été buggé, quoi. Il a été pris par des subroutines qui sont en profondeur dans le cerveau et qui, ces choses-là, fonctionnent comme des crises d'épilepsie. Ça, on le voit grâce à l'imagerie mentale, au scanner à haute résolution, à la résonance magnétique nucléaire, au PET scan, qui permettent, comme du cinéma, de suivre l'évolution à l'intérieur du cerveau de ce qui est en train de se passer. On voit que c'est des explosions thermonucléaires, littéralement. Hein. Il suffit déjà de voir quand soi-même on a un besoin quelconque, un besoin impérieux et un peu pécamineux, comment on réagit. Alors imaginez ce qui se passe chez ces gens qui sont balayés par une énergie absurde. C'est l'énergie limbique, hein, l'énergie de ce qu'on appelle faussement le cerveau reptilien, hein, parce qu'il n'y a aucun reptile qui a un cerveau comme ça. Mais enfin, par analogie, c'est une chose comme ça. Mais quand ces réservoirs d'énergie centraux explosent, il est totalement balayé. Et alors, deuxième élément, ça se rapproche de ce que les Américains ont décrit pour leurs troupes sous le nom de post-traumatic stress disorders, hein, c'est-à-dire un type est exposé sur un champ de bataille et pendant des années la charge émotionnelle qui est entrée dans le cerveau va revenir sous forme d'image intrusive et qui va réactiver tout le système, hein, ce qui est typique de l'hémisphère droit visuel, hein, on peut dire d'ailleurs visuel, et en même temps c'est un GPS, c'est l'hémisphère droit, hein, il localise, et on voit que chez lui, par exemple, il avait associé d'une façon majeures, les localisations topographiques, les noms, et probablement parce qu'à ce moment-là, l'effet de jouissance devait entraîner une empreinte majeure dans son cerveau, quoi. Et puis après, ça repartait.
Est-ce que vous croyez, à travers ce que vous dites, on a l'impression que sur un terrain extraordinairement affaibli, le mal, au sens du prince, du mal,
ça, c'est clair.
Vient et s'empare du bonheur.
Ça, c'est clair, parce que ça, c'est quand même, alors là, j'allais dire, c'est la sagesse de tous les temps qui transcende indéfiniment. Maxime le Confesseur, il en sait plus que la totalité de tous les médecins, ça, c'est clair. Hein. Mais on a toujours dit, y compris, hein, soyez sobre et vigilant. Hein. C'est un conseil qui va très loin. Si on lit comme ça, ça dit rien, mais il faut savoir, par exemple, que la sobriété, ça augmente la sérotonine dans la tête. Quand vous jeûnez, vous augmentez ce neurotransmetteur. Hein. C'est Anna Virgussis de Sandoz qui l'a montré. Donc, c'est-à-dire que quand on jeûne, on devient plus costaud. Hein. Et sobre, et vigilant, c'est l'alerte aéroportée à une heure, quoi. Hein. C'est-à-dire que le cerveau se met à utiliser les systèmes les plus nobles. ceux qui protègent et pas ceux où on commence. Quand on est en vigilance, on est tourné vers l'extérieur, on attend l'ennemi, on n'est pas en train de réfléchir, hein, de tourner des pensées. L'inverse total, c'est la réflexivité. Quand le cerveau commence à chercher en lui-même des sources de jouissance, hein, qui sont, il faut bien le dire, hein, toute la pornographie, tous ces machins, c'est de l'autosatisfaction. Ouais. Ça va très loin, ça. Les publicités qui vous disent faites-vous plaisir, c'est de l'apologie de la masturbation. Hein, parce que c'est pas simplement un acte uniquement sexuel, c'est tout. Hein, c'est l'espèce de rumination intellectuelle et qui finit par faire tout casser et à rendre le système complètement vulnérable. Alors là, évidemment, il faut être croyant pour dire ça, mais à l'assaut de forces maléfiques. Pourquoi dans toute la théologie des Hébreux anciens, qu'on va dans le Zohar et tout, il y avait des précautions contre les démons. Et nous aussi, on en a. Hein, par exemple, l'encens. L'encens, ça sent bon, moi je raffole et tout, mais combien de gens savent que l'encens a une action psychotrope majeure, qui a une action qui réveille le cerveau, qui augmente la sérotonine et qui exerce un véritable effet psychotrope comme le ferait une drogue éveillante, si vous voulez. Hein, donc ça va, ouais. Ça va très loin, quoi. Enfin,
un prêtre me disait que le démon n'a pas le pouvoir de connaître les pensées des hommes, mais il a une capacité extraordinairement développée d'identifier, de reconnaître leurs pensées à travers la seule chose qu'ils voient, c'est-à-dire les attitudes et le visage. C'est la fameuse histoire du visage vers le bas.
Des profileurs du FBI, par exemple. Enfin, moi, je sais que quand on connaît un peu à la jumelle, ben, je veux dire, même le moindre gendarme qui a 40 ans de mission, le moindre douanier, il reconnaît tout de suite le menteur. Voilà. Quoi, hein. Bon, donc, si nous, on peut faire ça, hein, quand on connaît un peu plus, comme les profileurs du FBI, ils savent par exemple que la position des paupières plus ou moins ouvertes, ça va indiquer le degré de tonus, hein, la position, l'allure générale, tout ce qu'on, bon, la couleur des cheveux, enfin il y a des milliers de signes, la façon de marcher qui indique que les gens sont plus ou moins contractés dans quelle partie du corps, on va pouvoir faire des déductions. Alors, pensez bien qu'un ange déchu, il a d'autres moyens d'aller encore plus loin que nous. Enfin, quand le Christ dit aux apôtres qui n'ont pas pu chasser un démon, ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. C'est quand même dire, le jeûne, c'est de la biologie, et la prière, c'est une alerte centrale, hein, qui bloque, qui verrouille le système nerveux. Et quand il est déverrouillé, c'est fini. Enfin, ce que je dis, c'est à la fois très banal, hein, ça serait la paresse et la mère de tous les vices et tout. Et
puis, c'est tellement banal que plus personne ne le dit.
Voilà, mais en même temps, c'est le banal, c'est ce qui est fondamental, quoi. Hein. C'est la base de tout. Hein. Donc, ce malheureux-là, enfin, c'est une histoire horrible. Après, il n'y a plus que Dieu qui peut peser, quoi. Il y a les responsabilités. Mais on voit bien quand même qu'il est piloté par quelque chose qui le dépasse complètement, quoi. C'est terrifiant. Quoi, hein. Et en même temps, c'est à une époque de cannibale, quoi. Parce que tout ce qui s'est passé, l'horreur dont vous parlez, hein, madame, dans votre livre, où c'est son frère qui a été mangé vivant, quoi.
Hein.
Le cannibalisme, enfin, c'est terrifiant, cette époque-là. Je connais pas très bien. Enfin, c'est vrai, il y a une famine effroyable. Les gens se mangeaient entre eux.
Hein. Ben, c'est-à-dire que, oui, en Ukraine, dans les années 30, hein, il y a eu une famine effroyable. On vous entend pas, Irina, quand vous parlez. Il faut voir. Quand il y a eu une famine absolument effroyable, j'ai des photos à la maison dans un bouquin qui est paru en 1929.
C'est vu aussi, c'est horrible.
Où il montre des marchés de viande humaine. Des marchés de viande humaine. Il y a une femme qui se tient devant un étalage où il y a de la bidoche humaine, enfin on voit, c'est hallucinant. Et donc c'est vieux, mais enfin c'est pas vieux, ça passe pas au 13e siècle, c'est 1930.
Il y a un côté d'abomination. Bon. Là,
alors les gens qui ont vécu ça, effectivement, ça doit leur laisser quelques...
Je me souviens, la première fois que j'ai été à Moscou, que j'ai été le soir voir le mausolée de Lénine, à l'époque il n'y avait plus la relève de la garde, il n'y avait plus rien. Hein. Mais l'effet que ça m'a fait, j'ai eu un effet épouvantable. Ouais. Je me suis précipité à la première église venue où il disait la Dipneion, vous savez, la prière du soir. Il y avait heureusement un pope d'une sainteté, enfin avec une barbe, tout, c'était merveilleux. Donc j'ai retrouvé, mais la nuit j'ai eu une crise d'angoisse horrible, hein, dans l'appartement où j'étais. Mais l'impression de ce mausolée qui est la copie du temple de Jupiter Capitolin, vous savez, de Pergame, c'est quelque chose d'effroyable.
Il y a d'ailleurs le trône de Satan.
Le trône de Satan. Ouais. On s'attend.
Est-ce que vous nous disiez que vous avez été communiste?
Oui.
Vous êtes d'une famille communiste? Vous n'êtes plus. Est-ce que ça a joué un rôle, le travail que vous avez fait dans ce livre, pour ce livre, est-ce que ça a joué un rôle dans votre évolution qui vous a fait changer de position, d'opinion?
De position, C'est peut-être parce que je suis en France, j'ai changé mon esprit pour communiste. Je suis judicieux vraiment dans mon pays, donc ça me fait mal dire maintenant comme ça. Mais judicieux de communiste parce que j'étais vraiment communiste, j'étais vraiment le patriote de mon pays. J'ai aimé mon pays plus que.
Oui, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre la difficulté que nous on a à comprendre.
Voilà.
Quand on rencontre des Soviétiques, des Russes ou des Ukrainiens ou des Biélorusses, peu importe, qui disent j'étais communiste. Alors nous, on dit c'était comme nos communistes à nous, les fonctionnaires paresseux, les branleurs de la CGT qui viennent faire leur sinoche gras à l'art dans les manifestations et tout. Mais pas du tout. En réalité, ce sont des nationalistes, ils sont des patriotes. C'est ça qu'ils veulent dire. Ils sont amoureux de leur pays comme le régime.
Communiste,
alors,
c'est égal patriote.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc,
c'est pour ça qu'on ne peut pas dire Machin est un ancien officier du KGB. Et alors, si c'est un officier patriote qui aimait son pays, est-ce que. Quelle signification ça qu'un militaire dans ce régime-là, il est obligé
Mais là, il faisait la distinction entre, par exemple, entre les patriotes et les démocrates. Et c'était ça, les mauvais. Enfin bon, Irina peut vous parler, par exemple, de son frère ou des divergences qu'elle avait, et elle était patriote, et son frère, il était démocrate. Oui, voilà, c'était comme ça.
Et donc, ça vous a quand même fait découvrir un aspect de la réalité soviétique que vous ignoriez, le travail sur ce livre. Vous dites que vous avez été déçu, mais vous avez été déçu de...
Ah oui, j'étais déçu, mais il y a déjà quelques années, et c'est pas aujourd'hui... J'ai été déçue quand j'ai appris par ma mère que c'est pas l'Union soviétique qui m'a payé vraiment, c'est la Russie. Et dans l'école, j'ai appris sur la Russie. C'est ma mère qui m'a raconté comment c'était mal pour la famille du tsar, Nicolas II. C'est pas à l'école.
Ouais.
C'est pas dans l'histoire que c'était filmé chez nous.
Vous étiez professeur, vous étiez enseignante, et vous ne saviez pas comment le tsar et la famille du tsar avaient été exécutés.
Je suis désolée, je suis professeur de maths et physique. Et même si j'ai appris l'histoire, beaucoup, j'ai appris l'histoire à partir de 1917 ans.
Ah oui.
C'est pas avant.
Avant, il n'y a rien.
C'était quelques pages dans le manuel, mais ça n'a pas été beaucoup parce que notre pays, ça commence quand la révolution arrive. C'est comme ça, c'était l'histoire de notre pays à partir de 17 ans. Mais...
Nous, en France, on a commencé avant vous, on a commencé en 1789.
Je sais, je sais.
Voilà, il faut lire ce livre parce qu'il est plus... D'abord, c'est un sujet extraordinaire, c'est un sujet passionnant. Enfin, on a rarement l'occasion de lire quelque chose d'aussi spécial et aussi original. Et puis, c'est un joli travail, un joli travail, c'est pas le mot, parce que c'est pas joli, mais c'est très intéressant à lire, c'est très bien fait, très 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 bien fait, à l'américaine. Ce qui, pour ce genre de livre, est un vrai compliment. Ça apporte des lumières extraordinaires sur ce qui s'est passé en Union soviétique à ce moment-là. Parce que, naturellement, le décor est campé. Il n'y a pas que Tchekatilo et l'enquête. Il y a notamment le récit de manifestation où les gens criaient « Fini le Parti communiste !» Enfin, c'est à l'époque où il était encore au pouvoir. On voit que ça commence à trembler, ça commence à vaciller, ça va s'effondrer. Et ça s'effondre en même temps que Tchekatilo, lui, est arrêté. Et on a l'impression que Tchekatilo, c'est l'incarnation d'un régime de terreur, de cannibale, comme disait le docteur Plantet, qui finit.
D'ailleurs, il y a une rencontre assez, assez extraordinaire, c'est que Tchekatilo va dans un hôpital psychiatrique en 1991, au moment où il y a Eltsine qui est à la Maison Blanche en train de faire sa révolution, c'est-à-dire la fin du communisme, et ils se croisent. Ouais. Ils se croisent et les manifestants voient cette voiture passer avec Tchekatilo intérieur.
Alors, les dernières phrases, c'est dans la région de Rostov. Les agents de la milice locale ont créé un musée unique qui expose des objets rares. Ce sont les affaires personnelles des tueurs en série ayant terrorisé la région. Le musée de la milice de Rostov conserve certaines pièces à conviction qu'un simple visiteur ne verra jamais. Sur l'un des panneaux, on a accroché les couteaux d'Andrei Chikatilo. Plus loin, il y a ses vêtements, ceux qu'il portait quand on l'arrêta. Des milliers de gens viennent chaque année visiter ce musée. Oui, c'est certainement vrai. Nous, les Russes, nous aimons nous faire peur.
N'oublions pas en plus que un candidat maire de Moscou a voulu faire une statue de Chikatilo.
Bon goût.
Pourquoi?
C'est bonne question. Pourquoi?
Parce qu'il fait partie de l'histoire russe. Parce que l'histoire russe, c'est pas simplement positif ou négatif.
Il y a des statues de Staline, et permettez-moi de le dire, à côté de Staline, Chikatilo, c'est un modeste amateur.
Tâcheron, moi, c'est sûr.
Merci beaucoup, Irina Filipchuk.
Alors, merci à vous.
Ce livre s'appelle Chikatilo, camarade serial killer. Il a été écrit par Irina Filipchuk. Alors, P-I-L-I-P-T-C-H-U-K.
Exact.
C'est très compliqué. Je peux vous le dire, moi. J'aime bien. Et avec l'aide de Jean-Pierre Favre, qui a largement contribué à ce livre, dit Irina, et qui m'a supporté. Il y a des tâches plus ennuyeuses, maintenant.
Oui, certainement.
Merci, Jean-Pierre, d'être venu nous voir.
Merci, une fois.
Et c'est paru aux éditions Anne Carrière, il faut le dire, oui, bien sûr. Aux éditions Anne Carrière, et il vaut 19 euros
18 euros.
18 euros, c'est un cadeau. Vraiment, pas la peine de s'en passer.
Et c'est en français.
Oui, il est en français, bien sûr. Non, parce que Irina, tout à l'heure, voulait absolument qu'on fasse l'émission en russe. Je dis que c'était peut-être pas une très bonne idée. Voir en ukrainien. Mon cher Vinny Wurmeling, on va pas faire la suite de l'émission en allemand. Tu viens nous présenter encore un de tes projets fous.
Oui, non, pas si fou.
Partez
que
pas,
ça.
Docteur. Hein,
pas si fou que ça. Non, c'est un de nos petits pèlerinages en Europe chrétienne, n'est-ce pas? Alors, on avait déjà fait en Russie, en Sainte-Russie, en 2002, puis un pèlerinage baroque en 2003, par les églises baroques de tout le sud de l'Allemagne, Autriche et même de l'Alsace. Ensuite, en Géorgie chrétienne, en 2004. En Suède, cette année-là, qui vient de s'achever. En Suède catholique s'appelait ce pèlerinage. Il n'y a que 1% de catholiques, mais on a fait ce pèlerinage dont on a parlé la dernière fois, n'est-ce pas? Et puis on prévoit pour l'année prochaine en Turquie chrétienne. Alors c'est un peu spécial, c'est ce que je pense. Il faut qu'on encourage nos amis chrétiens qui restent en Turquie et qui vivent vraiment sous l'oppression et qui sont heureux de chaque visiteur chrétien. Ça aura lieu l'année prochaine, soit en juin, soit en octobre. Parce que les Turcs, c'est-à-dire la Turquie, c'est un pays chrétien. Mais les Turcs, ils sont pas tellement chrétiens. C'est ça la différence que nous faisons à l'UNEC. Donc, nous allons en Turquie chrétienne. Et cette année, c'est un petit pèlerinage, une réédition de ce qu'on a fait déjà en 2003, c'est-à-dire sur les traces de Charlemagne. Alors, la Belgique et l'Allemagne rhénane, la Rhénanie. Il faut dire que Charlemagne est né à Herstal, si vous savez pas. Mmh. Herstal, c'est une
belle fabrique de revolvers.
Oui, c'est. Yeah. C'est tout de suite à côté de Liège. Et
C'est une fausse information, cher Vigny. Charlemagne est né en France. Charlemagne, c'était un empereur français.
Bien sûr, voilà. Il n'y avait pas encore la Belgique, donc... N'est-ce pas? Enfin, il y avait la Belgique, mais ça faisait partie du royaume de Charlemagne.
À sa place.
Plus tard. Alors là-bas, cette année, il y a une particularité, on a réussi avec le musée local, n'est-ce pas, de faire un colloque sur l'Europe chrétienne, c'est-à-dire deux orateurs belges et deux orateurs français, et ça s'insère logiquement donc dans cette excursion pèlerinage, comme on veut. D'ailleurs, ensuite, nous visitons surtout Aix-la-Chapelle, Aachen. Hein? Alors, la dernière fois, on a fait ce pèlerinage, et quand on arrivait déjà à Cologne, il y a une dame qui dit, mais quand est-ce qu'on va enfin voir Aachen? J'ai dit, mais c'était ça, c'était Aix-la-Chapelle. Bon,
Bon, ça va pas nous arriver cette fois-ci. Ensuite, en Cologne, naturellement, la cathédrale, mais aussi Notre-Dame des Ruines. C'est un nouveau lieu de pèlerinage depuis la dernière guerre. C'est une vierge qui est restée, une sainte vierge, le long d'une colonne, qui seule est restée debout de toute l'église. Et c'était vénéré dès le départ. On a organisé, nous, les jeunes, à l'époque, on est allés souvent pour prier au pied de cette... Alors, aujourd'hui, c'est une magnifique petite chapelle. Et on est le seul pèlerinage français. Et ça fait la troisième fois qu'on vient. Voilà. Et ensuite, nous allons à Marialar. C'est une abbaye de 1000, l'an 1000, bénédictine, qui a rayonné sur toute la Rhénanie. Et nous terminons avec le carnaval dans ma petite ville qui s'appelle Linz am Rhein, avec 5000 habitants. Mais on a quand même 15 chariots le lundi de carnaval. Et ça tombe justement sur le lundi de carnaval. Donc l'après-midi, on participe au défilé. Quoi,
Qui n'a pas participé à un carnaval en Allemagne ne sait pas vraiment ce que c'est que ça.
Non, vous savez, quand le prince il arrive sur le dernier chariot tout en haut sur la tourelle, qui prend à bras plein bras là les bonbons, qui les jette dans la foulée, tout le monde se met par terre, y compris les paroissiens de Saint-Nicolas qu'on avait amené la dernière fois pour ramasser des bonbons. C'est quand même un moment de bonheur, il faut le voir. C'est vraiment bon enfant, au moins. Bon, nous, le soir, on n'a pas fait trop longtemps, mais ce qu'on voit l'après-midi, c'est vraiment carnaval, dans le meilleur sens du terme. C'est l'amitié, tout le monde peut se prendre par le bras. On chante les fameuses chansons de carnaval, qui sont chaque année, d'ailleurs, en partie renouvelées, par des contests, etc. C'est très amusant. Et ensuite, on rentre chez nous, et on aura fait notre petit pèlerinage de carnaval. Alors la date... Oui.
Ça se passe le...
Oui, alors en février, là. Alors donc le 23... Non, pardon. Le 24 au soir, c'est un vendredi, nous partons devant la mutualité, ou si vous voulez, c'est la même adresse, devant Saint-Nicolas du Chardonnay, avec les cars Bourmaux. Et nous revenons le lundi soir, lundi de lundi Rosenmontag, le lundi des roses, on appelle ça lundi de carnaval. Donc ça fait du vendredi soir au lundi soir 3 jours, une petite excursion. Nous invitons.
Le logement, c'est dans les autres cas?
Oui, non. Logement, on reste 2 nuits à Herstal, dans un petit hôtel, et 1 nuit dans un magnifique hôtel 4 étoiles, oui, à côté de l'abbaye bénédictine de Marialar, et c'est l'ordre bénédictin qui fait marcher cet hôtel et qui finance par ce fait l'abbaye. Il n'est pas donné, le prix, mais c'est merveilleux. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que le magnifique lac de l'art, il y a l'abbaye de Mille, une magnifique romane abbaye, et à côté un super hôtel avec spa, sauna, vous voyez, c'est intéressant. Voilà.
De milliardaires, mais alors quel est le prix à propos?
Oui, alors le prix tout compris, comme la première nuit, c'est une quality inn, je crois, c'est pas trop cher, on arrive à un prix quand même intéressant, 350 euros par personne en chambre double et 400 euros par personne en chambre individuelle, tout compris. Hein,
sauf 350 euros par personne, c'est-à-dire en France, ça fait quoi? Ça fait 2500 francs.
Oui, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est les déplacements en Europe, c'est toujours très cher. D'ailleurs, la dernière fois en Suède, on s'est trempé, on s'est mis un peu dans les dettes. C'est pourquoi on fait pas un grand pèlerinage cette année. On en trinque encore un petit peu. Les hôtels en Suède, c'est terrible.
À propos de la Suède, tu nous prépares une grosse surprise.
Oui, la dernière fois, je voulais parler de Suède, mais on n'avait pas le temps. C'était en fin d'émission. C'est incroyable ce qu'on a vécu là-bas. Vous savez qu'on voulait faire un retour de la Sainte Messe de toujours dans cette Suède lointaine, inconnue. Et on a demandé aux églises luthériennes de pouvoir célébrer avec notre prêtre qui est venu avec nous la messe de toujours, la messe Saint-Pie-V. Dans ces anciens murs construits par les catholiques avant Luther, eh bien, on n'a eu aucun refus. Nous avons pu célébrer, et avec pompe, je vous dis, la croix, on était des adultes, chorale grégorienne, en sens, on a pu célébrer la messe dans 6 églises luthérienne. Et c'est dans un cas, c'était la prêtresse, n'est-ce pas, qui elle, qui sonnait les cloches quand le car Bourmeau avançait. On n'avait même pas encore parlé et sonnait déjà les cloches et les cierges étaient allumés. Il y avait la petite niche, vous savez, pour le vin et l'eau, construit par les catholiques il y a 6 siècles, c'était toujours là. On se sentait totalement à l'aise, plus que dans les églises modernes qu'on a vu aussi catholiques, je veux dire. Mmh. Hein? Et il y avait même un...
Mais les catholiques n'ont pas voulu de vous les
ah non, ils voulaient pas nous recevoir. Vous êtes des schismatiques, etc. Bon, ils ont pas. Apparemment, ils suivent pas tellement les nouvelles actuelles. Hein? Et il y avait même une église, la grande église de Vadstena, où la Sainte Brigitte a son grand reliquaire. C'est la sainte nationale, mais aussi copatronne d'Europe, hein, Sainte Brigitte. Bon, c'est une énorme église, je sais pas, c'est peut-être la moitié de Notre-Dame quand même, une énorme église, beaucoup d'espace. Et puis on s'est fait guider, c'est une vieille église encore, construite par les catholiques, avant la Réformation. Et puis j'ai dit, mais dites, c'est merveilleux votre hôtel, vous dites votre liturgie ici. Mais bien sûr, on fait la messe ici, à l'hôtel principal. J'ai dit, ah bon, mais là-bas, l'hôtel en cube, là, au milieu. Ah non, ça, on a installé ça pour les catholiques. Vous savez, il y a l'évêque catholique, le seul de Suède, il vient une fois par an avec 200 pèlerins, et eux, ils demandent toujours avoir un hôtel luthérien dans une église luthérienne. Ah non, c'est uniquement pour les catholiques.
Et pour terminer, ce voyage a abouti à quelque chose dont on peut pas parler maintenant.
Oui, il y a une chose, on peut pas trop en parler.
Mais c'est quand même assez spectaculaire.
Mais je vous esquisse quand même la chose. Il y en a une paroisse où le curé nous a dit, vous savez, ici, vous êtes chez vous, on est catholique ici. J'ai dit, mais c'est quand même l'église, c'était une église luthérienne de l'État, luthérien, vous savez, église État. Il dit, oui, c'est luthérien, mais justement, nous, on est catholiques dans l'église luthérienne suédoise. Mais comment, mais justement, on se pose la question aussi, ça fait 4 siècles qu'on réfléchit, on voudrait quand même mieux être catholique dans l'église catholique. Et nous, on a répondu, c'est parfois compliqué aussi, mais c'est peut-être quand même plus approprié. Et tenez-vous bien, toute la paroisse se prépare à la conversion officielle. Parce qu'il y a actuellement une crise terrible dans l'église suédoise. Le 27 octobre dernier, ils ont tous les évêques, 14 évêques, dont 2 femmes, ont décidé, avec l'État, ministre, de délégué du roi, etc., qui ont décidé, on va faire une liturgie pour le mariage des homosexuels. Et ça sera une obligation. On peut pas refuser. Et ça a déclenché une telle crise actuellement dans le clergé de l'église luthérienne, qui est resté largement dans les liturgies catholiques, comme je l'ai expliqué, qu'ils disent maintenant on peut plus être responsable dans une telle structure et il faut qu'on fasse très rapidement maintenant la démarche. Et il paraît qu'il y a 200 curés dans cet état d'esprit. 200 avec leur paroisse. Non?
Alors, on en reparlera abondamment le moment venu. Je crois qu'on aura des informations à apporter tout à fait étonnantes sur
les suites. Oui, mais vous voyez, les pèlerinages chrétiens en Europe, c'est en Géorgie, c'est pareil. Aujourd'hui, on a SOS Maman en Géorgie. Ils ont déjà sauvé 28 bébés. On a acheté une maison là-bas pour 3 fois rien. Vous voyez, les fruits du pèlerinage, ouais, comme on dit. Ça existe.
Bravo. Alors, où est-ce qu'on peut...
Oui, on peut s'inscrire. Alors, si ça vous intéresse, ou vous demandez d'abord une documentation, ou vous inscrivez carrément, et ça se fait auprès de notre secrétariat de l'UNEC. Alors, UNEC, 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 boîte postale 70114, boîte postale 70114, et tout ça dans le Val d'Oise, c'est-à-dire 95-210 Saint-Gratien.
Merci William.
Merci beaucoup.
Pourquoi je veux l'appeler William? Merci Winnie. Je n'ai pas lu les nombreux messages pour des raisons simples, c'est que étant tout seul, je peux difficilement à la fois parler avec les invités et lire des messages. Alors je vais le faire maintenant. Je vous les lis en vrac et dans le désordre, bien sûr. J'entends bien votre discours sur l'esclavage, mais les ports de Nantes, Bordeaux, La Rochelle n'ont-ils pas touché leur dîme au passage? Et dans nos belles îles des Antilles, c'était bien des Français qui faisaient travailler les esclaves. C'est tout à fait vrai, absolument. On n'est pas complètement innocent dans cette affaire. Mais, par exemple, je vous raconterai un jour, je l'ai déjà fait, mais toujours intéressante, l'histoire d'un esclavagiste français des Antilles, qui était arrivé en France avec deux des plus beaux animaux de son cheptel, comme il disait, et qui donc a perdu ce cheptel immédiatement, puisqu'en France, sur la terre du royaume de Louis XV, il était interdit d'avoir des esclaves. Et par conséquent, le seul fait d'arriver en France, ils ont été affranchis. Et je vous raconterai donc l'histoire de ce Français des Antilles, gros propriétaire d'esclaves et gros trafiquant d'esclaves, qui s'appelait Monsieur Mendès France. Quand on voit un des patrons d'émission du mardi être paniqué à l'idée d'avoir à choisir en 2007 entre Besancenot et Le Pen, on se dit qu'on est très très loin de l'union des droites préconisée par Monsieur Ferré. Oui, je crois que, en tout cas, cher auditeur, je vous le dis, je me demande si vous n'avez pas pris au sérieux une blague, de façon de dire que la mafia politique est tellement pourrie que on va se trouver avec le choix entre Le Pen et Besancenot. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de choix, en fait. Voilà, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Encore que ça m'ennuie pas tant que ça, puisque c'est choisi. Cervantes a été esclave à Alger pendant 5 ans. Il a été racheté, nous dit un auditeur. Vous devriez recommander les souvenirs maritimes de Scipion de Castries, dans lequel on voit que Louis XV et Louis XVI ont lutté contre l'esclavage. Ouvrage paru dans Le Temps retrouvé au Mercure de France. Monsieur de Becquet, je suis antillais, mes ancêtres ont dû être esclaves, je suis fier d'être français et je vous crois sincère. Vos propos m'ont convaincu et je vais m'abonner au Libre Journal. Merci, c'est très gentil. Le 10 mai prochain, commémoration de l'esclavage, j'irai tenir ces propos dans un commissariat de police au risque de me retrouver en garde à vue. Ça serait drôle. Lors de l'émission de Thierry Ardisson, nous avons appris après l'émission de Qui veut gagner des millions en faveur des pièces jaunes de Madame Chirac que celle-ci avait invité tous les participants de l'émission à un dîner à l'Élysée. C'est bien, ça a aidé beaucoup les enfants dans les hôpitaux. Le chanteur aux dents en fer, c'est Joey Starr, nouveau Mozart d'après Ruggieri. Ah bah oui. Dans François, on signale plusieurs milliers d'esclaves maliennes dans le 18e arrondissement que fait Madame Taubira. Il s'agit des prostituées qui sont pas autre chose que des esclaves, bien entendu. Il y a bientôt des manifestations lycéennes prévues. Pouvez-vous rappeler qu'il y a près d'un an, des jeunes ont agressé des lycéens blancs, qui s'appellent les bolos, n'est-ce pas? Je suis désolé, j'ai parfois du mal à lire, hein, c'est écrit rapidement. N'est-ce pas parce que les médias du politiquement correct ne voient comme esclavage commis que la traite européenne? Oui, c'est ça, effectivement, on crée un sentiment d'impunité chez les gens en leur disant qu'ils ont toujours été malheureux et maltraités. Monsieur Chirac a choisi pour le dernier référendum le jour de l'anniversaire de la prise de Constantinople. Il choisit pour commémorer l'esclavage le jour du rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802. C'est vrai, c'est pas mal ça. La guerre de succession d'Espagne se termine en 1713 au traité d'Utrecht. Les Anglais avaient la ciento, c'est-à-dire l'exclusivité du transport des esclaves de l'Atlantique. Ouais. Connaissez-vous le film Les Orphelines de Liverpool, où les orphelins blancs étaient envoyés comme esclaves aux colonies anglaises? Oui. Lire Nègres et Juifs, le racisme au XVIIIe siècle, de Pierre Pluchon. Ça c'est une chose effectivement qu'il faut lire. La route des esclaves négriers et Bois d'ébène, pareil, seulement ce sont des livres qui sont absolument introuvables aujourd'hui, et le titre doit vous indiquer pourquoi. Ce sont des livres qui étaient parus en 84 aux éditions Talendier. Voilà, il faut que je termine puisque nous arrivons au bout de cette émission et je n'ai plus la possibilité de vous lire des messages, j'en suis bien désolé. Je vous dis bonne semaine, je remercie mes invités d'être venus. Merci docteur, merci Vini, merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Et puis je vais laisser la place aux jeunes de la vieille Europe qui sont revenus, ils m'ont longuement torturé, j'ai fini par leur redonner un bout d'émission parce que je peux plus résister, je suis trop vieux maintenant pour me battre avec autant de jeunes gens. Bonne semaine et bonne quinzaine même, que Dieu nous garde.
bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe hébergées par le libre journal de Serge de Bekech. Autour de la table donc nos chroniqueurs habituels, même si effectivement ça fait quelques mois que nous ne nous sommes pas retrouvés. Donc dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, Grégoire Gambier, journaliste, Olivier Lebrun, journaliste également et spécialiste des questions de défense, Xavier Van Lierde, rédacteur en chef de Relève Politique, et Patrick PL qui anime notre célébrissime demi-heure culturelle de fin d'émission. Donc une émission comme d'habitude autour de trois parties. Une première demi-heure qui sera consacrée aux différentes brèves d'actualité géopolitique européenne, ce que nous avons relevé les uns et les autres dans les semaines les plus récentes. Une seconde demi-heure qui sera consacrée à notre invité qui nous a rejoint, et la troisième demi-heure, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera consacrée à l'actualité culturelle. Donc Serge Bekech concluait son émission comme ça, on va donc commencer la nôtre. Donc on le remercie effectivement de continuer à héberger nos chroniques de la vieille Europe dans son libre journal et pouvoir de temps en temps effectivement faire un petit peu de bruit autour de cette géopolitique et ses montées des périls un peu partout dans le monde. Et alors on va d'ailleurs commencer non pas par des périls mais par une série de bonnes nouvelles. Alors première bonne nouvelle que j'ai envie de vous faire part, chers amis, viennent une fois n'est pas coutume de Moscou, puisque hier mardi 31 janvier c'était la sixième conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine à la Nation. Vous savez que c'est le pendant d'ailleurs à quelques heures au décalage horaire près, le pendant à quelques heures du discours sur l'état de l'Union de George Bush à Washington. Et donc Vladimir Poutine a utilisé ce moment important entre un chef d'État et son peuple pour passer un certain nombre de messages. Ça nous change d'ailleurs des discours un peu vides de sens de Jacques Chirac à la Nation. Et alors, puisqu'on en est d'abord pour faire le factuel, Vladimir Poutine a donné deux informations, deux types d'informations. Premièrement, il a fait le point sur le relèvement année après année de l'économie russe, hein, l'économie dont on sait qu'elle a été particulièrement chamboulée par les années Eltsine. Eltsine fête d'ailleurs aujourd'hui son 75e anniversaire. Il y en a d'autres, probablement. Bon anniversaire à tous. Donc les chiffres qui ont été donnés par Vladimir Poutine sont les suivants. Donc sur 2005, un accroissement du PIB de 6,4%, après 7,1% en 2004, 7,3% en 2003. On se rappelle que l'objectif de la Russie est le doublement du PIB à l'horizon 2012, et ces chiffres sont grosso modo dans la tendance qui permet d'y parvenir. Le deuxième élément important de ces nouvelles, c'est que les réserves de change de la Banque centrale de Russie constituent aujourd'hui 182,2 milliards de dollars, et aujourd'hui, ces réserves de change dépasse la dette extérieure de l'État, c'est-à-dire que la Russie continue donc ce processus de désendettement important. Rappelons qu'elle a terminé de rembourser intégralement donc sa dette au FMI, elle a remboursé par anticipation plus d'un tiers de sa dette au Club de Paris, et puis pour la première fois en 2005, d'abord les investissements étrangers dans l'économie russe ont doublé pour atteindre 26 milliards contre 12 milliards l'année dernière, mais surtout pour la première fois, la Russie créditrice nette en afflux de capitaux privés. On sait qu'une des grandes difficultés de la Russie était que chaque année, les capitaux quittaient l'État, c'est-à-dire qu'à l'issue du processus de normalisation des richesses, notamment des oligarques, eh bien les oligarques en question sortaient leurs capitaux de Russie. Aujourd'hui, pour la première fois, les entrées nettes ont été supérieures aux sorties nettes, ce qui est là aussi un signe de confiance d'un certain nombre d'investisseurs dans l'économie russe, et je crois que c'est un élément à prendre en compte, que cette normalisation se poursuit. Alors évidemment, il y a un certain nombre de conséquences pour les citoyens. Donc les revenus réels en espèces des Russes se sont accrus de 8% cette année, et s'agissant du salaire moyen, il a augmenté là aussi de 9,8% cette année. Autre indicateur qui est là aussi significatif, plus de 88% de progression pour les indices des valeurs russes à la bourse de Moscou. Et puis alors tout ça donc crée crée évidemment à deux conséquences. Premièrement, une stabilisation des principaux flux financiers et donc une confiance accrue dans le système économique russe, même s'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'éléments inquiétants dans la structure de l'économie russe, à la fois de sa grande dépendance au pétrole et à l'énergie, et également sur la relative fragilité de son secteur bancaire. L'autre bonne nouvelle qui va avec, c'est que pour la deuxième année consécutive, et le président Poutine a souhaité nettement le montrer dans sa conférence de presse, l'augmentation de la natalité en Russie est confirmée, et ça c'est une très bonne tendance. Alors évidemment, ce taux de natalité demeure inférieur au taux de mortalité, ce qui est donc pas bon signe, mais depuis 2 ans, suite aux multiples mesures qui ont été prises pour l'accroissement de cette natalité, les chiffres montrent que la tendance s'inverse et repart dans le bon sens. Alors, un dernier élément qui a été cité sur le plan économique et énergétique, puisque nous, Européens, depuis l'affaire du gaz, nous sommes sensibilisés à cette question. Vladimir Poutine a redit que la Russie ne comptait pas utiliser les matières énergétiques pour atteindre des objectifs politiques. On sait que c'est évidemment la question qui a été posée par tous les observateurs suite à l'affaire ukrainienne, à l'affaire géorgienne. Alors, aujourd'hui, il y a ce fameux géant Gazprom qui s'intéresse à un certain nombre de marchés européens. Il y a une arme énergétique potentielle pour la Russie. Aujourd'hui, la Russie dit « nous n'utilisons pas, nous restons fidèles à nos clients comme nous l'avons été au plus fort moment de la guerre froide ». Est-ce que ce discours poutinien est un discours pour rassurer les masses et les médias, ou est-ce que ça répond à une véritable vision stratégique de cette question, Olivier Lebrun?
Je pense que la question elle est facile, à prendre en compte. La réponse est facile à donner. La Russie utilisera et fait bien de l'utiliser sa puissance énergétique comme arme stratégique, et c'est tout à fait logique. Et la Russie n'est pas seule dans le cadre géopolitique énergétique mondial à faire de même. Elle serait suicidaire de ne pas en user. Je crois que l'importance géopolitique fondamentale des matières premières est une nouveauté pour personne. On le consacre de manière directe. Sauf pour la France, c'est vrai. Mais on le constate de manière directe.
Encore qu'avec le nucléaire, la France montrer qu'elle savait prendre en compte ces questions.
On peut y revenir justement. Je pense que la question est liée. Donc on voit la chose de manière directe avec l'arme du gaz qui est brandie par la Russie. Donc la réponse est oui. Vis-à-vis de sa sphère d'influence stratégique, c'est tout à fait naturel. On constate aussi indirectement, je pense que ça vous a pas échappé dans l'actualité, la vente prochaine par la Russie de 4 milliards de dollars de matériel militaire à l'Algérie. C'est un achat gigantesque qui s'explique par la revalorisation des prix du pétrole, une revalorisation qui permet à Alger, mais aussi au Venezuela d'Hugo Chavez, qui fait l'actualité de manière assez récurrente ces derniers temps, de renforcer leurs moyens militaires de manière opportune. Donc c'est basé effectivement là aussi sur l'arme énergétique. Si on suit ce fil rouge énergétique dans l'actualité et dans les brèves que nous avons relevées, on constate aussi un autre pays qui fait l'actualité, c'est l'Iran. De façon assez forte. Le jeu iranien nous concerne, Européens, de manière assez proche, ne serait-ce que par le rôle qui est joué par la France, l'Angleterre et l'Allemagne dans la tentative de règlement ou de freinage de l'Iran sur le chemin de l'acquisition d'une capacité autonome d'une force de frappe nucléaire. Le jeu iranien, d'un point de vue géopolitique énergétique, a une apparence qu'on nous présente, c'est celle d'une surenchère nationaliste à l'arme nucléaire qui pourrait déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient. Ce jeu est une réalité. C'est le rôle essentiel de l'Iran en tant que réserve de pétrole et de gaz qui lui permet de bâtir une stratégie consciente et maîtrisée, quoi qu'on en dise sur les gesticulations de M. Ahmadinejad, et consciente et maîtrisée vers la constitution d'une force de frappe autonome. Et l'Iran est très consciente de ça. Par exemple, quand elle menace, et c'était il y a 2 jours, en cas de transfert de son dossier au Conseil de sécurité dans le cadre nucléaire, de fermer le détroit d'Ormuz. Donc par le détroit d'Ormuz passe une immense partie des flux d'hydrocarbures à destination des nations développées pour leur consommation énergétique. C'est véritablement une arme, une clé qui peut être utilisée par l'Iran. Et comme dans le cas de la Russie que vous évoquiez tout à l'heure, Philippe, c'est une arme stratégique qui est naturellement utilisée par les pays qui peuvent s'en servir. Je crois qu'on peut également sur ce sujet, au-delà du rappel d'un certain nombre de points pourrait recentrer le débat sur l'Europe. Hein. Qu'est-ce que notre le discours de géopolitique énergétique a à nous dire, en quoi ça nous concerne. Je rappelle que l'économie européenne repose sur les combustibles fossiles pour 4/5 de sa consommation totale énergétique, et près des 2/3 sont importés. S'il y a un chiffre à retenir, c'est que notre dépendance énergétique globale, je prends l'ensemble, l'Europe dans son ensemble, est de 55% aujourd'hui en termes de taux de dépendance. Il sera de 70% en 2030. Il y aura un prix à payer obligatoirement pour ça. Donc on peut se demander, effectivement c'est le débat, quels sont nos intérêts dans ce cadre énergétique planétaire? Comment l'Europe peut-elle réfléchir? Quelle stratégie peut-elle mettre en place pour obtenir une autonomie ou en tout cas mettre en place les étapes d'une stratégie d'autonomie dans le domaine énergétique? On peut proposer une réflexion à court, à moyen, à long terme dans ce cadre-là. Je crois qu'à court terme, notre intérêt évident, c'est de protéger, de sécuriser nos approvisionnements en hydrocarbures. La Russie va jouer un rôle dans ce raisonnement. Sécuriser nos approvisionnements énergétiques à court terme, ça passe par une politique de défense cohérente et volontariste. Ça veut dire que nous devons être en mesure de faire respecter notre volonté dans le cadre d'une crise. On évoquait il y a 2 jours une menace très, très nette de la part de l'Iran de fermeture du détroit d'Ormuz. Dans le cas d'une crise géopolitique énergétique de ce type, l'Europe doit être prête à imposer sa volonté à un moment du temps, pour sécuriser ses approvisionnements. En sommes-nous capables? Là, on passe dans le débat sur la cohérence de notre politique de défense, les choix qui vont être faits à long terme sur le nucléaire, notre force de frappe, et notre crédibilité dans un cadre international de plus en plus mouvant. À court terme, donc, sécurisation de ses approvisionnements. À moyen terme, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue européen? Je crois que l'intérêt, et c'est un avis qui est partagé ici, et je crois pour des raisons objectives, l'intérêt européen, c'est la prise en compte des convergences stratégiques entre la Russie et l'Europe continentale. La Russie compte aujourd'hui pour 20% de nos importations européennes de pétrole. Je parle au niveau européen. Quant au gaz, la Russie expédie 60% de sa production, à l'heure actuelle, vers l'Europe. Qui deviendra, qu'on le veuille ou non, de plus en plus dépendant des approvisionnements extérieurs gaziers? Donc géopolitiquement, pour replacer donc dans le contexte qui nous préoccupe, l'argument énergétique vient renforcer les synergies européennes existantes entre Orient et Occident européen. Le gazoduc baltique, dont la lettre Sentinelle parlait il y a peu de temps. Ce gazoduc baltique qui a été décidé récemment entre la Russie et l'Allemagne pour éviter le trajet par une Europe orientale outrageusement atlantiste va dans le bon sens. Dans le sens d'un partenariat solide entre la Russie et l'Europe d'un point de vue énergétique.
On va rappeler pour nos auditeurs que c'est à la tête de ce projet-là qu'a été nommé Gerhard Schröder une fois qu'il ait abandonné son habit de chancelier fédéral.
Tout à fait. Et je pense que ça va dans le bon sens. Tout le monde connaît Paris vaut bien une messe. Je crois que le gaz, on peut se poser une question, est-ce que le gaz vaut un soutien à la Russie sur le sujet tchétchène, par exemple? Je crois que la réponse collégiale ici est oui.
Le gaz vaut-il un gazoduc qui contourne la Pologne, laquelle Pologne refuse la TVA à 5,5 pour le bâtiment? La réponse est oui.
Facétieux, la réponse est oui, évidemment.
Facétieux et poujadiste. Poujado, c'est du poujado-facétisme.
Est-ce vraiment péjoratif ici? On mettait ce débat en perspective à court terme, à moyen terme. À long terme, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'Europe? Je terminerai là-dessus, avant d'ouvrir le débat. À long terme, c'est évidemment, pour nous, la sortie de la dépendance pétrolière et le développement d'énergies alternatives en Europe. On peut dire que d'un point de vue des intérêts vitaux européens, l'écologie rejoint la nécessaire souveraineté du continent. Donc en tout état de cause, je crois qu'on peut le dire à long terme, les tensions sur le prix pétrolier imposeront d'elles-mêmes les changements. Le baril à $100, c'est pour demain, et il sera à $100.
Il est à $68 aujourd'hui et probablement à $70 très rapidement.
Il sera à $100, je crois, pour longtemps, à partir du moment où il aura dépassé ce seuil. Et dernier avantage pour l'Europe, donc cet engagement volontariste dans la recherche d'énergie alternative, appuyé sur un partenariat solide et loyal politiquement avec la Russie, cet avantage serait de couper le robinet des pétrodollars qu'on déverse sur les ennemis irréconciliables de l'Occident, qui sont aujourd'hui les monarchies du Golfe. Il faudrait savoir effectivement ce qu'on veut. Peut-être mettre en perspective cette stratégie à court, moyen et long terme en parlant de l'Iran. Aujourd'hui, il y a deux discours. Hein, une dénonciation de l'Iran, un danger qui pèse sur l'Occident, et une certaine sympathie dont ne peuvent se départir, quoi qu'ils en aient, un certain nombre de Gauliens ou d'admirateurs de ce chemin de souveraineté que suit l'Iran. Alors, je crois que c'est intéressant d'avoir ce débat. On peut avoir de la sympathie pour la volonté de la nation perse, nation millénaire, évidemment respectable, d'accéder à l'autonomie et à la souveraineté par l'arme nucléaire. Moi, j'ai de la sympathie pour cette volonté. Et de toute façon, le président iranien Ahmadinejad est sympathique dans l'absolu. Je m'étonne que l'Occident bourgeois qui applaudit servilement tous les briseurs de tabous pendant 40 ans n'applaudisse pas le situationniste géopolitique plein d'humour qui est Ahmadinejad, qui est quand même l'auteur de cette phrase extraordinaire: on n'a quand même pas fait la révolution pour avoir la démocratie.
C'est la bombe au service de l'intelligence.
Tout à fait.
Je crois que... sur ce sujet-là, je vois bien que vous allez en venir, mais comment peut-on empêcher l'Iran, qui est bordé au nord de la Russie, puissance atomique, à l'est de l'Inde, puissance atomique, à x centaines de kilomètres, Israël, qui est puissance atomique, avec à sa frontière ouest l'Irak, qui est envahi par les Américains, puissance atomique, de vouloir développer une capacité atomique?
En tout cas, on développe un complexe obsidional à moins. C'est vrai qu'on est complètement... on peut comprendre l'Iran et beaucoup de gens le comprennent.
En termes de géopolitique, si je puis me permettre, il ne s'agit pas de défendre des grands principes équilibrés et universels, ni de comprendre. On peut parfaitement comprendre et en même temps souhaiter que l'occurrence ne se réalise pas. Ce qu'on défend dans un raisonnement géopolitique, ce ne sont pas des grands principes, ce sont ses propres intérêts. Or, il s'agit donc de se poser la question: est-il de l'intérêt de l'Europe et de la France que l'Iran acquiert cette capacité nucléaire militaire ou pas? Quant au principe, excusez-moi.
Tout à fait.
On n'est pas dans une conversation de l'ordre de la morale.
Mais bien évidemment. Mais est-ce que la construction d'une puissance atomique iranienne concourt à la multipolarité que nous appelons de nos voeux sur un certain nombre d'amiers de l'échiquier mondial?
Je crois pas que la discussion soit forcément sur la morale. Certains vous répondraient
que c'est pas moral, la multipolarité.
Certains vous répondraient qu'elle est sur l'équité. Simplement, un certain nombre de pays ont l'arme nucléaire. Pourquoi la nation perse ne pourrait pas avoir l'arme nucléaire? Je crois que cette grille de lecture gaullienne, et je rejoins complètement, est dépassée. Parce qu'il y a une limite à ce point de vue, c'est la nocivité agressive et prosélyte de l'islam iranien aujourd'hui. Nucléaire en possession de l'Iran, en fait, ne serait pas la bombe iranienne, ça serait une bombe musulmane. Il y a une communautarisation aujourd'hui des armes de destruction massive. Il suffit de penser au Pakistan. Le Pakistan désigne sa propre capacité atomique, non pas comme la bombe pakistanaise, mais comme la première bombe musulmane. Et donc c'est pas de la paranoïa, on est en phase d'une communautarisation, d'une capacité destructive. Donc les références à Mohamed Mossadegh en Iran, à Ali Jinnah au Pakistan d'un point de vue historique, comme porteur d'une vision souveraine, nationale, indépendante de ces pays, je crois, sont des référents dépassés. En tout cas, et là effectivement, on rejoint, je suis d'accord avec vous, une vision morale. Je crois qu'il faut aujourd'hui essayer d'analyser le phénomène d'islam globalisé, hein, dans la perspective de l'accès à une bombe qui nous menace directement, et non des réplications gaullistes moyen-orientales qui cette grille de lecture n'est plus vraiment opérante.
D'autant qu'effectivement, ce qui est frappant dans le cas de l'Iran, c'est lorsqu'il s'adresse à l'Occident, il s'adresse à l'Occident en tant que nation en utilisant les arguments que vous avez évoqués, c'est-à-dire d'autres nations ont la bombe, pourquoi pas nous, ont des capacités nucléaires, pourquoi pas nous, mais dans le même temps, il multiplie des déclarations sur un certain nombre d'autres sujets qui sont autant de messages lancés effectivement à l'ensemble de la communauté islamique, au-delà même de la communauté chiite, ce qui dévoile sa volonté de reprendre un leadership sur l'islamisme de l'Iran, d'avoir un leadership sur l'islamisme mondial au-delà de ses limites chiites.
Alors pour certains peut-être amis de l'Iran sur le sujet nucléaire, je voudrais peut-être rappeler simplement une déclaration très récente du président du Parlement iranien sur le sujet, à l'occasion, donc on a tous suivi ici ce discours important de la remise à jour de la doctrine nucléaire par le président président Chirac lors de son discours à l'île Longue. Et il y a des réactions extrêmement violentes. Et du point de vue iranien, puisqu'on était sur le débat iranien, donc Gholam Ali Adalladel, qui est le président du Parlement iranien, que dit-il le 22 janvier dernier ? Ouvrez les guillemets, on peut penser que le président français a tenu ses propos pour tenter de réhabiliter le prestige de la France dans le monde après les récents troubles où des jeunes exacerbés par l'injustice et la violation des droits de l'homme étaient descendus dans la rue et brûlaient des centaines de voitures chaque nuit. C'est une honte pour le peuple français que son président dise qu'il utilisera l'arme atomique sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Les Français doivent faire des efforts durant des années pour effacer la honte laissée par le massacre d'un million d'Algériens, effacer le souvenir de l'aide de la France à Saddam Hussein et les massacres en Afrique et au Rwanda. Je pense que là, il y a une leçon. Oui. D'utilisation d'un concentré de désinformation, ça aurait intéressé Vladimir Voskov.
C'est du discours.
Si les présidents de Parlement, c'est comme si Jean-Louis Debré faisait la politique de la France.
Non, je crois que ça, c'est plus intéressant que ça. Il y a un concentré de désinformation dans le cadre d'une épreuve de force qui lie des intérêts géopolitiques et des enjeux énergétiques. Et je crois que c'est à prendre en compte.
Okay.
Là, pour les amis.
Sur la question, oui, je voudrais ajouter quelque chose dans votre stratégie à court, moyen et long terme. C'est que l'enjeu du partenariat très fort entre l'Union européenne, entre l'Europe au sens large et la Russie, je suis totalement favorable à ce partenariat. Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas simplement de s'en remettre comme dans une solution de facilité au gaz russe en se disant, ben voilà, notre indépendance énergétique c'est réglé, on a les Russes à côté, c'est parfait. Il s'agit également d'aider les Russes à être en mesure de continuer à nous livrer ce gaz, dans la mesure où le gaz russe est consommé à 70% de la production de gaz russe est utilisée sur le marché domestique, 30% est exporté vers l'extérieur et 25% vers l'Union européenne. Or, vous l'avez rappelé, Philippe Christel, le PIB russe est en expansion. PIB en expansion signifie consommation d'énergie en croissance également. Le partenariat entre l'Europe et la Russie doit être un partenariat qui vise non seulement la Russie à aider au développement de ses capacités de production d'énergie fossile, mais également, par exemple, d'efficacité énergétique, puisqu'on sait que pour produire un point de PIB, la Russie consomme 3 fois plus d'énergie que les pays d'Europe occidentale. On voit donc que ce partenariat que vous vouliez loyal est également naturel et que la Russie a également besoin de l'Europe, non seulement pour lui acheter son gaz, lui acheter son pétrole, mais pour avancer sur le chemin de l'efficacité et de la modernité. Nous sommes parfaitement complémentaires. Ils vendent, nous avons besoin d'acheter. Ils ont un certain nombre de capacités techniques. Ils n'ont pas un certain nombre de capacités techniques que nous possédons. Nous sommes faits pour nous entendre. Et il ne s'agit pas de s'en remettre aux Russes, mais de lancer un grand chantier continental qui donne à l'Europe et à la Russie, à l'Eurasie, un avantage stratégique considérable dans les décennies à venir.
D'autant plus que ceux qui peuvent répondre à cette demande russe, qui ont à la fois les moyens d'aider à développer les capacités de prospection notamment, et qui ont également une demande forte, ce sont les Chinois, et qui ont donc de manière totalement homothétique à la nôtre, la même demande, et donc les mêmes enjeux, et donc la Russie ne va cesser de balancer. Elle a fait suffisamment d'offres de services vers l'Ouest. Il est dommage que pour l'instant la réponse de l'Ouest ce soit les apprentis sorciers du MI6 qui jouent au pousse-caillou dans les squares de Moscou pour financer les ONG.
Pour l'instant les choses restent encore en suspens sur la Chine. La Russie a opté pour un tracé effectivement de l'éoduc qui favorise le Japon. Je pense que vous êtes dans le vrai. Ne gâchons pas cette chance et prenons la Russie.
Je crois que l'affrontement politique aura lieu en 2008 lors de la succession de Poutine, lequel reste totalement discret sur les scénarios qu'il envisage pour la suite. On pourrait y revenir, mais pour l'instant, le jeu est suivi. Il a les cartes en main, le jeu est brouillé. On sait ce qu'il ne fera pas, mais on ne sait toujours pas ce qu'il sera fait. Je pense qu'un des affrontements de 2008 en Russie, c'est entre les libéraux et les nationaux, au sens national bolchevique, colbertiste peut-être, et également entre le choix de l'alliance Saint-Pétersbourg tournée vers l'Ouest et le choix de la Sibérie tournée vers la Chine. C'est probablement les tendances centrifuges qui sont à l'œuvre, qui se préparent pour 2008. Très rapidement.
Afin que les messages ne se déversent pas dans le cadre de notre émission, j'aimerais que vous précisiez le sens que vous donnez au mot bolchevique, Philippe Christel.
Non, j'entends. C'est une extrapolation des fameux siloviki dont nous parlons qui sont opposés. Mais si c'est plus clair pour vous, tant mieux. Je pense que nos auditeurs auront préféré le concept national bolchevique, même s'il est un peu excessif, je l'admets. Un premier message. Ravi de vous retrouver. Merci à cette équipe de jeunes gens intelligents. Ça fait toujours plaisir. C'est gentil. Deux messages d'auditeurs. Parlez-nous aussi de l'augmentation des prix en Russie. Il est vrai que dans les statistiques que j'ai citées, je n'ai pas cité l'inflation en Russie. L'inflation est aujourd'hui à 10,5. Elle était censée être contenue à 8,5. Effectivement que cette inflation est la contrepartie des bons chiffres cités. Elle reste relativement maîtrisée, d'autant que la Russie donc a mis au point un fonds de stabilisation qui est aujourd'hui de 44 milliards de dollars et qui permet justement la rétention d'une certaine partie de la manne pétrolière pour éviter de faire filer cette inflation. Mais aujourd'hui, l'inflation n'est pas aussi autant jugulée que souhaité, mais elle reste dans des fourchettes maîtrisées. Une autre question d'auditeur, les Chinois sont-ils en mesure de s'emparer des réserves de Sibérie? On avait dans cette émission même plusieurs fois explicité le fait que si la Russie s'affaiblit, eh bien, il n'est pas sûr qu'elle résiste sur sa frontière orientale, frontière de l'amour, à la pression démographique chinoise. Aujourd'hui, ce que nous disons, les capacités militaires de la Russie qui sont sanctuarisées et les accords diplomatiques ou stratégiques russo-chinois font que cette option-là n'est pas la plus probable aujourd'hui, probablement ni dans le court ni dans le moyen terme, peut-être sera-ce le cas du long terme. Un autre commentaire, j'aurais voulu qu'on parle d'Arcelor et de Mittal, mais on va pas avoir le temps, donc peut-être très rapidement. En gros, il y a trois, c'est peut-être un sujet sur lequel on peut débattre. Il y a trois positions qu'on peut avoir devant cette OPA hostile du groupe néerlando-anglo-indien Mittal sur le franco-hispano-luxembourgeo-belgo Arcelor. Un, c'est de se dire que les réactions du gouvernement aujourd'hui sont totalement décalé parce que la mondialisation c'est ça et qu'il n'y a pas de raison qu'on applaudisse les OPA hostiles quand c'est les Français qui les font et qu'on pleure quand c'est les autres qui les font sur les Français. Deux, c'est de dire que qu'on le veuille ou non, on tient là un géant européen et qu'il faut le défendre et il faut faire en sorte que une partie de ce qu'il porte soit préservée. Trois, c'est peut-être aussi de constater que c'est bien gentil de pleurer pour Arcelor, mais si Arcelor aujourd'hui n'a pas la taille critique et n'a pas d'actionnariat solide, c'est un, parce que dans notre pays, idéologiquement, on a toujours refusé les logiques de fonds de pension, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de fonds qui solidement verrouillent une partie des capitaux des grandes entreprises, et donc Arcelor a 86% de son flottant dans le public. Et deux, c'est que Arcelor, au lieu de regarder dans les opportunités qui s'ouvraient à l'Est ou ailleurs depuis 10 ans, consacre le tiers de son énergie à financer des plans de restructuration et des tracas pas possibles que les syndicats les plus rétrogrades de l'Europe occidentale lui imposent en Belgique et en France. Alors je sais pas, quels sont les, puisqu'on a beaucoup parlé de patriotisme économique à cette table, d'un autre côté d'aucuns ici sont des libéraux voilà, quelle est votre réaction rapide sur avant qu'on passe juste la parole à notre invité?
On parlait de patriotisme, monsieur de Villepin a mis des mesures pour protéger nos grandes entreprises. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, on protège les industries de défense, ça me paraissait naturel, et les industries du jeu.
Et alors oui, là, je
me suis quand même posé la question, pourquoi? Et il y a quand même quelques journalistes qui se sont aperçus que la société Danone était propriétaire de casinos. Donc ça permettrait, ce système-là, de rendre l'OPA sur Danone plus compliqué. Alors, si c'est pour faire des lois comme ça, je crois qu'on
est... C'est des réactions de l'État français. Votre sentiment à vous sur le débat sur faut-il aider Arcelor ou pas?
Il faut faire pression, je crois que c'est comme le font le Luxembourg. Luxembourg fait pression, mais il n'y a pas les syndicats, il n'y a pas le gouvernement luxembourgeois qui est quand même, lui, actionnaire à 5% dans Arcelor, qui est en train de crier au scandale.
15%.
Ils ne sont pas en train de crier au scandale. 5%.
Il y a 15% de non-flottants, enfin 14 et quelques, et le Luxembourg à 5,75%.
Le seul problème, c'est que,
Wallonne, 3%.
C'est que la société indienne est un peu opaque sur le plan des marchés boursiers. C'est ce qui inquiète un peu tout le monde. Un propriétaire qui est à peu près à quoi, 80%.
Mais, le vrai problème, c'est la répartition des droits de vote et du contrôle effectif de l'entreprise. Une entreprise comme Mittal, dont le capital est verrouillé au niveau familial, dans le cadre de la structure de l'OPA qui a été...
Ne rentrons pas dans le débat que se poserait un actionnaire qui fait-il une bonne affaire ou pas. Oui, sur le plan de la gouvernance d'entreprise, peut-être qu'il fait une mauvaise affaire. Mais sur le plan du principe, à défaut de la morale ou de nos intérêts, oui. Xavier Van Lierde.
sur le plan du principe, des principes aussi, de la réalité, c'est parfaitement navrant de voir effectivement un géant français et européen passer sous le contrôle d'une entreprise étrangère. Ce qui est également navrant, c'est d'avoir pu constater dans les jours, les semaines qui ont précédé, que deux géants européens se faisaient concurrence, ThyssenKrupp en l'occurrence et Arcelor, pour le contrôle d'une entreprise d'outre-Atlantique. Bon, on constate que les grands secteurs industriels européens ne sont pas pilotés de façon stratégique, et je n'appelle pas un pilotage forcément de l'État, mais une bonne compréhension des intérêts réciproques des grandes industries européennes, que chacun fait cavalier seul, et que, en l'occurrence, ça a fait vraisemblablement le jeu de Mittal Steel.
Okay. Excusez-moi, oui, allez-y.
Non,
c'est bon. Simplement, okay. Ouais.
On va s'arrêter là, on va passer à notre deuxième demi-heure, puisque notre invité attend, et on lui a déjà piqué 3 minutes, et ça, c'est pas gentil.
Bonsoir, vous êtes bien aux Chroniques de la Vieille Europe, accueillies par le Libre Journal de Serge Beketch sur Radio Courtoisie, pour cette deuxième demi-heure donc consacrée à notre invité. Nous restons dans le domaine de l'énergie, mais l'énergie humaine, avec Nicolas Mijatovic, voilà, merci, responsable donc Île-de-France de l'association Solidarité Kosovo, si je ne m'abuse, qui vient à l'occasion de la Noël orthodoxe, d'acheminer 1,5 tonne de jouets au Kosovo pour les enfants serbes du Kosovo. Alors c'est un front, si je puis dire, dont on parle que rarement, et vous avez en plus choisi l'axe humanitaire pour marquer votre solidarité avec ce peuple éminemment européen. Pour commencer, pourquoi cette association et pourquoi cette action?
Alors l'association Solidarité Kosovo a été fondée par des étudiants grenoblois qui étaient, eux, assez choqués de voir comment les Serbes étaient traités dans les médias et traités surtout par des puissances occidentales. Il ne faut pas oublier que depuis les années 90, il y a l'opprobre vraiment qui s'est jeté sur le peuple serbe. Il y a beaucoup d'amalgames qui ont été réalisés contre le peuple serbe, accusé de tous les maux de la terre. Il y a eu des bombardements en 99, pareil, uniquement contre les Serbes. Et aujourd'hui, une partie de la Serbie, le berceau même de la Serbie, est occupée par l'OTAN et est gouvernée par l'ONU. Donc, cette liste qui est très longue de doléances qu'on peut avoir, a fait réagir ces étudiants grenoblois qui se sont dit on va faire quelque chose pour aider les Serbes. Bon, c'est un peuple frère, c'est un peuple européen, c'est un peuple chrétien. La France et la Serbie sont des peuples frères depuis plus d'un siècle. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Donc, en gros, ils avaient un contact à Kosovska Mitrovica, où ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et ils ont répondu quelque chose qui est assez simple, c'est apporter des jouets à nos enfants. Ça remonte à 2 ans. Et c'était, à vrai dire, on pouvait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus grand que ça. Et donc, c'était apporter des jouets à nos enfants. Donc, du coup, suite à ça, ils se sont mis en route. Ils ont appelé leurs amis, ils ont appelé les gens de la famille, etc. Et en 95, donc, pour le Noël orthodoxe, donc dans le calendrier justinien qui est au tout début du mois de janvier, ils apportent plusieurs cadeaux pour les enfants orphelins ou qui ont dû fuir les pogroms de 94, qui se retrouvent dans des foyers d'accueil à Kosovska Mitrovica, qui est donc une poche serbe au nord du Kosovo. Et là, du coup, il y a des vrais liens qui se tissent entre les Serbes et ces étudiants français. Moi, j'ai rejoint l'association il y a un peu plus tard cette année. Évidemment, je suis moi-même serbe, donc très très sensible à ce sujet. Et je me suis dit, je veux aider les Serbes du Kosovo. On a porté en effet cette année 1,6 tonne. Donc, on a développé des réseaux, on est allé plus loin, on a incorporé des écoles qui ont participé. On a sensibilisé les enfants sur ce qui se passe au CERN du Kosovo. On y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez. Et donc, du coup, notre objectif, c'est d'apporter un peu de bonheur, de ranimer la flamme qui existe entre le peuple français et le peuple serbe, et de résister, parce que c'est vraiment de la résistance qui se passe au Kosovo.
Vaste programme. Effectivement, les orphelins serbes pleurent aussi. Les auditeurs de Radio Courtoisie, notamment, s'en souviennent, puisque c'était le titre d'un film qui avait été diffusé, notamment par les réseaux de l'âge d'homme, à l'époque de l'agression otanesque contre la Serbie. Vous avez réalisé aussi un film, votre expédition. Malheureusement, on est sur la radio, donc ça va être un petit peu compliqué.
Ça peut durer à voir.
Oui, enfin, on peut imaginer déjà, si vous nous faites un bref récit de cette expédition, parce qu'on imagine que ce n'est pas simple à monter. Il y a des zones grises, hein, plus ou moins en conflit larvé à traverser. Il y a de nombreux postes frontières, et c'est là qu'on se rend compte peut-être que l'Europe de Schengen, entre gens polis, en tout cas, ça a du bon, et sans doute beaucoup de corruption.
Sans gens qui n'ont rien à se reprocher, ça, voilà. Ça a du bien.
Et beaucoup de corruption. Donc peut-être, brièvement, ça s'est bien passé, vous êtes arrivé à l'heure sur place. Et...
Alors, on a eu beaucoup de jouets cette année, ça c'est clair, on est 1,6 tonnes, c'était pas rien pour nous, et du reste, j'en profite pour remercier les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous ont vraiment beaucoup aidés par leurs dons, et bien, par leur dons en espèces, et les dons aussi en termes de jouets. Traverser les frontières, on est parti de Paris, on a traversé l'Allemagne, l'Italie, sans trop de problème. En Slovénie, en Croatie, l'état des autoroutes s'améliore. Il n'y a pas trop de problèmes. À vrai dire, le premier problème, c'est la frontière croate. Et là, on se rend compte que tout le monde ne sait pas forcément que le mur de l'Est est tombé. C'est long. On est un projet humanitaire. C'est pour les Serbes. Il y a encore le conflit est enterré, mais il y a des séquelles. C'est long, c'est administratif, mais ils sont pas méchants pour autant. Ils nous laissent passer. Ils nous font payer une place de parking de 10 euros parce qu'on s'est arrêté 15 minutes devant un bureau. Donc évidemment, j'avais trouvé plus cher que le 8e arrondissement de Paris.
Ah, vous en profitez pour dire du mal des Croates, là?
Pas du tout. Je raconte l'anecdote parce que vous allez voir que malheureusement, c'était encore pire quand on est arrivé côté Serbe. Donc du coup, ils ne voyaient pas de mauvaises intentions de ma part. On traverse donc du coup la Croatie, on arrive à la frontière serbe où là vraiment il y a encore. Et j'avais honte. J'avais honte, moi, en tant que Serbe, j'en arrivais avec des Français, avec une aide humanitaire pour nos frères qui sont au Kosovo, et les douaniers serbes de regarder qu'est-ce que c'est que ça, et où sont les papiers, et où sont les tampons, et tout, etc. Et franchement, bon, c'était un peu pénible. Alors, évidemment, nous, on était peut-être un peu naïfs aussi. On arrive avec un camion plein, une voiture aussi qui nous accompagnait, 1,6 tonnes de matériel. Ils ne savent pas où on va, qui nous sommes. Nous aussi, on a appris de cette expérience et on va faire en sorte que l'année prochaine, on arrive avec tous les papiers, tous les tampons nécessaires. Parce qu'évidemment, quand on rentre dans un pays, c'est à nous de se plier aux lois. Donc du coup, on va améliorer ça l'année prochaine. On a de nouveau, quand on arrive au Kosovo, vous avez de nouveau une frontière. Parce que l'ONU, donc du coup, l'OTAN occupe le Kosovo et il y a une deuxième frontière. Donc c'est un peu bizarre pour moi, je suis dans mon pays et j'ai une frontière à passer dans mon pays, avec une frontière où il y a des soldats parfois même serbes.
Mais... C'est pareil pour nous en Seine-Saint-Denis, vous savez.
C'est un peu plus visible, mais mais là, donc du coup voilà, on doit demander les tampons, etc. Et on arrive enfin à Kosovska Mitrovica et là c'est très très symbolique parce qu'on arrive la veille de Noël, tous les villages serbes la veille de Noël font des énormes bûchers devant les églises et on va récupérer du chêne dans les forêts, on fait brûler ces grands bûchers et c'est très beau à voir, et tout le village se rassemble. Il y a évidemment des pétards qui sont lancés tout au long de la nuit, ainsi que du happy shooting. En gros, les Serbes se lâchent un peu, c'est la fête, c'est le Noël orthodoxe. C'est un moment de liesse.
Il y a de la Slivovitch dans l'air.
Il y a beaucoup de Slivovitch en l'air.
Un peu partout.
Et c'est l'esprit de fête. Le lendemain matin, donc du coup, on est arrivé tard, on a dû se coucher vers 2h du matin. On se lève tôt le lendemain matin, puisque la messe de Noël, c'est une messe de l'aube, qui est à 5h du matin. Donc dès 3h30, on était debout, les routes étaient verglacées et on avait décidé d'aller au monastère de Banská. C'est un monastère qui est symbolique parce qu'il était rasé par les musulmans à plusieurs reprises, a été reconstruit et c'est à peu près une dizaine de kilomètres au nord de Kosovska Mitrovica. On arrive là avec nos jouets, on assiste à la messe de l'aube qui dure 3h30, donc de 5h à 8h30, vous êtes debout. Et il faut savoir que donc dans la liturgie orthodoxe, il n'y a pas beaucoup de réponses de la part des fidèles. Hein. Vous avez juste à la fin le prêtre qui dit « Christos erodi, Zaistas erodi » répond la foule au bout de 3h30 de cérémonie. Mais ce que je voulais dire, c'est que personne ne dit rien. Les gens se plaignent pas, les gens sont debout, sont fiers, il y a beaucoup de jeunes. On est...
un très très bon moment dans ce monastère qui a été reconstruit. Moi, j'en garde un souvenir vraiment très très profond et très très beau de cette cérémonie avec des popes quasi christiques qui sont en train de servir la messe. Ça a fait du bien et ça change parfois de ce qu'on peut voir malheureusement en France. À la sortie de cette messe-là, on distribue les cadeaux aux enfants qui étaient là.
Justement, l'accueil des enfants, parce que est-ce que clairement vous étiez affichés comme des Français apportant une aide humanitaire ou plus simplement comme de jeunes Européens un peu par réflexe qui ouvre une voiture et qui distribue des jouets?
Non, on a dit sur place qu'on était des Français, qu'on faisait ça pour l'amitié franco-serbe, mm-hmm. et qu'on était très sensible à la cause des Serbes du Kosovo, et donc c'est pour ça qu'on distribue les cadeaux. Donc les enfants, à vrai dire, ils s'en fichaient un peu. Ouais. C'était les cadeaux qui les intéressaient, mais les adultes qui étaient avec eux, leurs parents, étaient très très sensibles. Vraiment, on a eu des mots d'encouragement. C'était un comportement vraiment très slave, des accolades, tout de suite les gens appréciaient ce geste. Les enfants étaient ravis. Imaginez un enfant, on est dans la neige, il est 8h du matin, et il sort de 3h30 de messe et il a des super cadeaux. On avait vraiment des généreux donateurs qui nous ont fait de beaux cadeaux. Et donc du coup, ça c'était notre première distribution au monastère de Bainska le jour de Noël.
D'accord, il y en a eu deux autres.
Il y a une annonce à la radio faite, à la radio serbe du nord du Kosovo, comme quoi on allait distribuer des cadeaux dans le centre-ville de Kosovska Mitrovica. Donc là, on est juste on est dans le centre. L'autre côté, vous avez Libar, vous avez 80 000 Albanais musulmans qui sont à quelques centaines de mètres de nous. Vous avez les voitures de la CAFOR qui patrouillent partout, etc. Tout se passe très bien. On distribue les cadeaux, même ambiance, même délire. Tout le monde est je vous dis, c'est une ambiance qui est euphorique, vraiment qui est extatique presque, j'ai envie d'employer le mot parce que c'est un débordement de joie et ça nous a fait du bien, évidemment, mais pour ces enfants, ça les a fait un bien immense et là on voit que ce qu'on fait au moins n'est pas vain. Et l'après-midi, on est retourné dans le village de Bainska. Et là, j'ai juste une petite anecdote que j'aimerais raconter. Parce que, pareil, les enfants sont très heureux, viennent nous voir, les parents nous serrent dans leurs bras. Et là, le moment est très bien, on sort de la fête de Noël, il y a un bon déjeuner, bien arrosé. Et là, on voit les enfants qui sont en train de rigoler. Ils sont en pull et en sandales en plastique dans la neige. Et eux, ils sont en train de rire et tout. Pour eux, c'est normal et tout. Et nous, on est en train de se dire, mais on est à 1h30 de vol de Paris. Et on a des frères européens qui sont là, qui sont en sandales en plastique dans la neige. Et ça doit être des sandales en plastique qui ont dû être fabriquées par le régime il y a 60 ans, qui ont été passées de grand-père en père, en fils, etc.
Ah bon, on faisait les choses bien à l'époque, hein.
C'est costaud. Mais ces gamins, et on s'est dit, c'est pas normal. Alors nous, on avait la chance, on avait demandé des vêtements chauds. Mais ça, c'était un village qu'on a servi en vêtements chauds, en chaussures, en gros blouson, en doudoune, tout ce que vous voulez. Il y a plus à faire. On s'est dit, on peut pas s'arrêter là. Ça n'est pas normal aujourd'hui que des enfants soient dans cette situation-là aujourd'hui, en Europe en tout cas.
Oui, justement, on a bien compris peut-être le sens de la démarche qui était à la fois presque strictement humanitaire, en tout cas de solidarité à l'égard d'un peuple frère injustement agressé et dénigré. Ça participe donc de la dimension de votre réflexe et ensuite de l'expédition qui en a découlé. Il y a aussi une solidarité visiblement chrétienne à l'égard d'une menace musulmane, en tout cas une pression musulmane dont les pogroms de mars 2004, si je ne m'abuse, ont constitué le dernier point d'orgue. Donc il y a les deux aspects et sans doute peut-être d'autres dans votre démarche.
Bah, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais je vais employer un langage qui est pas très politiquement correct, mais
ça va choquer les auditeurs, méfiez-vous.
On va voir. En tout cas, le Kosovo est en pleine phase d'islamisation. Et ça, vous n'allez pas l'entendre souvent sur les médias européens. Déjà, c'est une terre que les Ottomans qui ont occupé pendant 5 siècles. Il y a une présence musulmane, mais qui n'a jamais prise auprès de la population serbe, qui a toujours résisté, qui est toujours restée chrétienne et fidèle à ses traditions. Il y a une albanisation depuis le XVIIe siècle, et les Albanais sont arrivés avec la foi du converti. Ils ont été extrêmement... ils avaient beaucoup plus de haine, on va dire, contre les Serbes que même les Turcs avaient, et ça se poursuit aujourd'hui sous l'œil complaisant de l'OTAN. Et comme vous le disiez très justement, en mars 2004, qu'est-ce qui se passe? Un véritable pogrom comme on n'avait jamais vu en Europe, j'ai presque envie de dire depuis des siècles, où toute une population, plus d'1 million de personnes, se déverse dans les rues et liquide tout ce qui est serbe, tout ce qui est église, tout ce qui est monastère. On s'attaque à tout ce qui est à tout ce qui est serbe et tout ce qui est chrétien. On arrive à tel point qu'aujourd'hui, les Serbes, ils ne peuvent plus même pratiquer dans leurs églises, mais Ils ont reconstruit des neuves. Les Serbes qui sont restés ne se laissent pas abattre. Ce sont de véritables résistants. Et ce qui est agréable, c'est que vous arrivez à Kosovska Mitrovica. Donc, si vous connaissez un peu la toponymie de cette région-là, vous avez beaucoup de montagnes, de vallées, et vous avez en haut de la ville une superbe église qui a été reconstruite, puisque justement en mars 2004, l'église de Saint Sava, l'église symbolique des Serbes au sud de la ville, a été rasée, pillée par les Albanais. Ils ont construit une grande sur un des flancs de colline de la ville qu'on ne peut pas louper, avec un grand drapeau serbe majestueux qui flotte au vent. C'est un symbole fort. Malheureusement, quand je visitais cette église, c'était la fin du jour de Noël, les Serbes étaient très, très fiers de nous présenter cette église-là. J'avais presque oublié où j'étais, tellement l'ambiance était agréable, était bonne. C'est vraiment une ambiance de Noël. Et là, tout d'un coup, je vois tout d'un coup tout des minarets qui s'illuminent en face. J'avais oublié même ce qui se passait. On me rend compte en haut de cette colline qu'il y a 80 000 Albanais, dont 80% de la population, et j'entends les Allah Akbar. Je suis dans mon pays, j'entends ça. Je peux vous garantir que ça vous glace le sang. Ça vous glace le sang, et tout d'un coup l'histoire se rappelle à vous, et vous savez où vous êtes, et vous comprenez pourquoi il y a les patrouilles de l'ONU, et vous comprenez pourquoi la situation de ces Serbes-là est difficile et dure, parce qu'ils subissent une oppression. Et je vous disais tout à l'heure, je parlais du regard complaisant de l'OTAN, c'est triste à dire, mais ils laissent faire. En 2004, on a des photos de soldats de la KFOR qui sont devant les églises, devant les monastères, devant des maisons de Serbes en train de brûler, et ils sont là en train de discuter entre eux. Ils disent, ce sont des photos, ça existe, les témoignages sont là, mais aujourd'hui il faut des images, donc les images on les a, et la KFOR n'est pas intervenue. Et donc du coup, ceci dit, il y a eu 200 000 Serbes, il faut savoir, depuis que l'OTAN a bombardé la Serbie, le Kosovo, il y a 200 000 Serbes qui ont fui les pogroms et les attaques anti-chrétiennes, anti-serbes au Kosovo.
Ils étaient déjà pas très nombreux, hein, puisque toute l'affaire, il y a beaucoup d'explications, hein, notamment politiques, directement politiques et géopolitiques, qui expliquent la situation actuelle, mais elle se résume très facilement, hein. Le Kosovo, donc berceau historique et même spirituel de la nation serbe, vous disiez que vous étiez chez vous au Kosovo, mais vous êtes deux fois chez vous, si je comprends bien, et complètement, enfin démographiquement, les Serbes ont été de facto chassés de chez eux en moins de deux siècles, hein, puisqu'ils étaient majoritaires il y a deux siècles.
Exactement.
Et maintenant ils sont quoi, moins de 10%.
Ils étaient même majoritaires à la fin du 19e siècle. Il y a eu des allers-retours, oui. Il y a eu des vagues suite à l'occupation ottomane, ensuite le congrès de Berlin aussi, quand les Serbes ont eu leur premier état depuis 500 ans d'occupation. Il y a beaucoup de Serbes qui ont fui évidemment le Kosovo, parce qu'il valait mieux vivre dans un état chrétien au nord que de vivre en tant que dhimmi dans la dhimmitude ottomane au sud. Après, une fois que le Kosovo a été rattaché et enfin son indépendance en 1912, de nombreux Serbes sont revenus, et on va dire que à la fin du 19e, le Kosovo est majoritairement serbe. Mais non, il y a une occupation, et donc du coup suite à l'occupation il fallait repeupler le Kosovo. Ce que les Serbes ont fait, malheureusement, évidemment, au moment où ça se passait bien, le début du 20e siècle, les Serbes retournent. Malheureusement, plutôt que de reprendre leurs terres et leurs villages qui ont été occupés donc suite au pogrom des Albanais, des Turcs au siècle précédent, plutôt que de reprendre leurs terres, ils ont construit de nouveaux villages. Donc on va dire, ils ont été cléments avec leurs anciens bourreaux. Je ne sais pas moi si j'aurais été aussi clément. Ils l'ont fait. Voilà, c'est l'histoire qui l'a décidé ainsi. Et après, malheureusement, les Serbes, le martyr du Serbe se poursuit après l'occupation ottomane, puisqu'après quelques décennies de liberté. C'est le pouvoir communiste qui est en place et qui nie aux Serbes la possibilité de vivre leur identité, de vivre leur foi, mais qui en revanche loue le nationalisme albanais au Kosovo, et qui fait tout pour aider les Albanais du Kosovo.
Et relayé en ça dans la dernière ligne droite par les Américains lors des accords de Rambouillet.
Exactement, parce que ça c'est la
dernière étape du processus.
Tout à fait. Les Américains titistes, comme chacun sait.
Non, mais les Américains qui sont censés toujours être nos grands amis, mais qui ont là bien fait en sorte que l'Europe soit fractionnée dans la douleur à cet endroit-là. Et c'est pas fini.
Tout à fait, notamment
par l'américanophile.
Américanophile de l'émission, parce que ça faisait longtemps. Oui, c'est la théorie du coin musulman dans le flanc de l'Europe, qui effectivement participe de la non-construction politique de notre continent. D'autres questions
Profite juste de l'interruption, oui. Pour lire deux messages d'auditeurs. Une auditrice qui nous dit: je vous remercie du ton amical avec lequel vous parlez de la Russie d'abord et de la Serbie ensuite. En général, ce sont plutôt des slogans de haine qu'on entend à ce sujet. Pas sur Radio Courtoisie, mais mais c'est vrai que les slogans politiquement corrects sur ces pays-là ne sont jamais très agréables. Merci, une Russe fidèle de Radio Courtoisie. Et puis une question en géopolitique, la notion de frère n'a pas grand sens, elle est très fragile. Est-ce que on n'a pas senti que la notion de fraternité qui nous unissait aujourd'hui aux Serbes était fragile?
C'est un peu ce que disait Xavier Van Lierde en début d'émission. On ne parle pas uniquement de géopolitique. Là, on parle bien d'une opération humanitaire où donc le sentiment, l'affect, évidemment, est un moteur. D'où la conception de peuple frère qui n'est pas si, enfin, qui trouve sa pertinence parfois. Mais on n'est pas dans l'analyse effectivement géopolitique totale.
Non, alors excusez-moi, c'est totalement différent. C'est-à-dire que le fait que les Serbes soient européens et chrétiens comme nous, c'est pas un principe abstrait, c'est une réalité elle-même géopolitique et extrêmement tangible. Donc là, quand on parle d'un peuple frère, on n'énonce pas un principe, on parle de liens qui sont ceux du sang et de l'histoire.
D'un point de vue de la fraternité justement entre les peuples européens, la Russie historiquement et traditionnellement est la protectrice attitrée du peuple serbe. Oui. Donc à travers l'histoire, en particulier avant les différents conflits mondiaux. Et je voudrais poser à notre invité la question suivante: qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la Russie est active au Kosovo? Est-ce qu'elle aide les Serbes qui restent là-bas? Par exemple, le type d'opération que vous avez menée et qui est utile, est-ce que la Russie finance ce genre d'opération? Est-ce qu'il y a des groupes russes actifs, de jeunes russes qui aident leurs frères en Serbie? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Alors ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une véritable solidarité des églises orthodoxes entre elles et qu'il y a de l'aide qui arrive par le moyen de l'église orthodoxe de Russie qui, elle, prend des positions très très claires sur la Serbie, sur le Kosovo. Est-ce qu'il y a d'autres associations? À ma connaissance, non. Je m'avance un peu. Nous, on a eu pas mal de contacts, en tout cas dans Kosovska Mitrovica, qui est la plus grande ville serbe du nord du Kosovo. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait. Je dois vous avouer que de jeunes Serbes, je ne sais pas, qui est de l'aide. Oui, c'est clair qu'en 99, quand les soldats russes sont arrivés, avant les soldats américains, suite au bombardement de l'OTAN, c'était vraiment, ils étaient perçus comme une armée de libération. Et du reste, les Russes se sont comportés comme une armée de libérateurs, ce qui était très agréable, mais qui a malheureusement duré très très peu de temps, parce que les Américains, l'OTAN sont arrivés, il n'y a plus de Russes présents sur place. Dans l'armée de l'OTAN, il y a des soldats qui ont des sympathies pour la Serbie. Il y a des anecdotes qui redorent un peu le blason de la France quand même, mais c'est plutôt au terme des soldats qui sont sur le terrain. Malheureusement, c'est le même problème. Les soldats qui sont sur le terrain voient très bien qui sont les martyrs, qui sont ceux qui martyrisent et qui sont les martyrisés. Et donc du coup, il y a des belles anecdotes à raconter. Mais c'est dans les bureaux et tous les Marocains qui sont là, qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, qui prennent leurs décisions au détriment de l'Europe et de la Serbie.
Oui, quand vous avez parlé de l'armée russe qui s'est comportée comme une armée de libérateurs, j'ai eu un moment d'angoisse, mais en fait c'était majoratif dans votre bouche. Parce que tous les exemples historiques ne le confirment pas. Non. Xavier Van Lierde.
J'ai une question un petit peu française, égocentrique. Lorsque vous êtes arrivé là-bas, la France sortait d'une série d'émeutes dans les faubourgs de ces grandes agglomérations. Les Serbes que vous avez visités étaient-ils au courant de ces événements? Et quel regard portent-ils sur ces
événements? Vous parlez des émeutes du Ramadan 2005.
Là, Philippe,
ou de la révolte des classes dangereuses, c'est ça?
Voilà, des petits remous sociaux qui sont produits dans notre pays à l'approche du Noël.
Alors,
entre le Ramadan musulman et le Noël catholique.
C'est une très bonne question. Ils nous en ont parlé tout de suite et leur première réaction, c'est: alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, là, c'est un peu compliqué. Je disais,
rien, comme d'habitude.
La réponse est simple.
On a arrêté de discriminer, puis on a payé plus d'impôts. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, c'est ça. On leur a donné des chèques, on va les embaucher, on a compris leurs gestes, etc. Et ils nous ont dit, mais vous êtes en train de faire exactement la même chose que nous. Vous allez vivre la même chose que nous. Ce qui est en train de se passer chez vous, c'est ce qu'on a vécu, nous. Il y a surtout après l'arrivée du communisme en Yougoslavie, où vous allez tout faire pour favoriser, essayer de faire de ces populations des petits Français comme on essayait de faire des Albanais, des petits Yougoslaves. Ça n'a pas marché. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Serbes au Kosovo et on verra ce qui se passera chez vous. Mais, nous disait-il avec une petite pointe d'ironie, ça ne nous étonnerait pas qu'un jour, ce soit nous qui vous apportions des cadeaux à Noël. Donc du coup, là, vous en prenez un peu sur le... C'est un petit coup au moral. Malheureusement, quand on lit l'histoire, c'est une éventualité qu'il faut...
J'espère que nous apporterons des Kalachnikov.
je me souviens d'un slogan de jeunes militants qui était, si je ne m'abuse, aujourd'hui... La Serbie, demain la Seine-Saint-Denis, qui avait été repris d'ailleurs par un groupe de rock identitaire français.
Ouais, ils ne pensaient pas que ça viendrait aussi vite, peut-être.
Probablement.
Bon, enfin, il n'y a pas encore la réaction qu'ont eu les Serbes, un peu vitale, face à cette agitation.
Alors, un message d'auditeur, qui est à la fois un encouragement et une question. Bravo pour tout ce que vous faites. Envisagez-vous un autre voyage là-bas? Si oui, quand? Et j'ai envie de rajouter, enfin, comment vous aider? Comment vous contacter? Comment contribuer?
Alors, c'est une autre question qui nous est arrivée entre temps, mais qu'on voulait garder pour la fin. Mais effectivement, une auditrice qui nous demande, pouvez-vous nous redonner les coordonnées de l'association qui aide le Kosovo lentement? Merci.
D'accord. Alors, des deux questions, je vais faire une réponse. Nous comptons évidemment retourner au moins à chaque Noël. Ça, c'est le minimum. Au début, quand l'association a été lancée, on s'est dit, si à chaque Noël, on peut apporter des cadeaux aux enfants de Serbes du Kosovo, dans différentes villes, on voudrait aller la prochaine fois dans les enclaves. Là, on était dans une grande ville, on voudrait rentrer dans les poches d'enclaves. Vous avez quelques centaines de Serbes qui sont entourés de milliers de musulmans hostiles.
Mais on voudrait aller leur apporter
aussi. Hein. Exactement. Bon, on verra. En tout cas, nous, c'est notre volonté. On va pas se laisser. On voudrait aller plus nombreux aussi, avec encore plus de cadeaux. Mais non, on va y retourner au printemps. Parce que c'est une chose d'aider les enfants, et c'est un geste humanitaire, un geste de solidarité. Maintenant, on veut aussi aider les Serbes à rester sur leur terre, et ils ont besoin d'aide. Il y a 60% de chômage au Kosovo. Si ça, c'est pareil, c'est voulu par l'ONU, plus il y a de chômage au Kosovo, plus les Serbes vont avoir tendance à vouloir remonter au nord, où il y a peut-être un peu plus de boulot. On veut les aider à se développer. Donc du coup, on va retourner au printemps. On voudrait rencontrer différents dignitaires, responsables de la mairie, de l'université du nord du Kosovo, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour les aider à se développer. On avait l'idée d'apporter, on avait la possibilité d'avoir pas beaucoup de tissus pour que les femmes se mettent à la couture, pour qu'elles fassent quelque chose de leur dix doigts, qu'elles lancent un marché, et ça, c'est un de nos objectifs, c'est les aider à relancer leur économie. Ce sont des objectifs modestes, mais je peux vous garantir que ça, avec beaucoup de volonté, on peut faire de très belles choses. Et donc du coup, donc pour nous aider, en gros, pour l'instant, on a besoin, quand on n'a pas une mission spécifique d'apport de matériel, on a besoin tout au long de l'année de dons. Évidemment, on est une association, on ne vit que de nos dons, et Radio Courtoisie, les auditeurs de Radio Courtoisie le comprennent. On a une logistique, il faut le matériel qu'on récupère, on l'entrepose, il faut l'amener sur place, il y a des droits de douane à payer, il y a ce genre de choses-là. Tout euro versé, évidemment, à l'association Solidarité Kosovo est utilisé directement pour nos missions. Il n'y a pas de secrétariat, on ne fait pas des grandes soirées.
Vous êtes tous bénévoles.
On est tous bénévoles, bien évidemment, là-dedans. Donc du coup, pour nous aider, si vous voulez nous aider, surtout si vous voulez aider les Serbes chrétiens du Kosovo, vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre de Solidarité Kosovo, boîte postale 15, 38 560 Jarrie, J-A-R-R-I-E. Donc je répète, un chèque. Solidarité Kosovo, BP 15, 38 560 Jarrie, J-A-2-R-I-E. C'est en France, évidemment.
D'autant que vous aviez un projet, enfin qui va plaire naturellement aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui était peut-être d'envoyer des livres de classe, parce qu'il y a beaucoup, à toute proportion gardée sans doute, mais des Serbes du Kosovo qui apprennent le français, donc qui essayent d'être francophones, et donc il y a une demande de livres en français. En fait,
exactement. On parlait de peuple frère. C'est, ils n'ont pas par hasard choisi la langue française. Ils sont très francophiles, et dans les classes, les enfants, moi j'étais surpris de voir des enfants de 12 ans me parler en français. Et à un moment, on avait un donateur qui savait donner des histoires de Noël en Provence. Et on a dit, on les embarque, on ne sait jamais. Et on a demandé, qui veut ces livres? Mais plein d'enfants ont levé la main en disant, mais nous, on veut ces livres-là en français. Ils sont francophiles. Donc du coup, justement, nous, dans nos missions, on veut aussi leur apporter des livres. Il faut les encourager. La francophonie, c'est aussi, ça peut avoir de très très bons aspects, notamment celui-ci. On veut aider ces enfants-là. Et une de nos missions, en tout cas Noël de l'année prochaine, peut-être plus tard, l'été de cette année, on voudrait apporter des livres et du matériel scolaire aux enfants. Justement, si les enfants sont bien, s'ils ont les bons livres, s'ils ont le bon matériel, ils resteront sur place. Les Serbes qui ont dû fuir le Kosovo pourront revenir, et on va garder cette terre. On va garder cette terre serbe et chrétienne.
Nicolas Mijatović, merci de votre passion. Xavier von Lierne, vous vouliez se rajouter, alors que la conclusion s'imposait d'elle-même.
Oui, non, j'ai écouté Nicolas Mijatović, j'ai été convaincu. J'arrête d'envoyer mes livres francophones à Kinshasa, et dorénavant, je vais les envoyer à Mitrovica. Et voilà, cette francophonie-là en vaut bien d'autres, après tout.
Très bien, donc on va passer, merci Nicolas, et vous restez avec nous. On passe à notre troisième demi-heure culturelle sur Radio Courtoisie. bien, merci. Nous nous retrouvons toujours dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie au sein du Libre Journal de Serge de Bekech. Notre troisième demi-heure est plus que traditionnellement consacrée à l'actualité culturelle. Patrick PL, vous démarrez avec un sujet de télévision.
Eh oui, mais cette fois-ci, je vais vous parler de télévision russe.
Ah, ça c'est bien.
Pour une fois, les Russes par rapport à notre...
On parle jamais de la télévision serbe.
Bah, je la connais pas. Bombardée par les Américains.
Je la connais pas. La télévision russe a eu une très bonne idée avec l'aide de son gouvernement, car c'est une télévision d'État. C'est pas comme nos chaînes de télévision française. A décidé de financer un feuilleton sur le grand Solzhenitsyn. Alors c'est très marrant parce que depuis la semaine dernière, dans les rues de Moscou, on a des immenses portraits de Solzhenitsyn. Les Russes aussi font de la publicité simplement pour annoncer le premier épisode du premier cercle. Alors tout le monde connaît ce livre qui a révélé peut-être avant l'archipel du Goulag Solzhenitsyn, qui raconte les 3 jours de décembre 1949 de la vie des prisonniers du camp spécial de Marfino au nord de Moscou, qui était réservé aux intellectuels chargés de travailler sur les nouvelles technologies. Donc le premier cercle, qui faisait référence au premier cercle de l'enfer décrit par Dante, est un monument, et on espère bien qu'un jour notre télévision aura la bonne idée de diffuser ces 10 épisodes qui ont été, ce qui est important, scénarisés par Alexandre Solzhenitsyn. Chaque détail a été revu par lui-même et par son équipe, donc je pense que ça peut être que bien. Hein. Donc si la télévision française, privée ou publique, ou même un DVD peut-être, pourrait acheter ça au lieu d'acheter encore une fois une nouvelle série américaine,
Madame Dayan,
ou la dernière série de Derrick. Je pense que ce serait déjà beaucoup plus intéressant.
Critiquez pas d'Eric.
Ouais. Ça, vous aimez bien la télévision allemande, Olivier Lebrun.
Oui.
Ouais. Ben, je vais vous parler d'Allemagne. Wagner. Wagner est à l'honneur en France, et pour une fois, ce n'est pas l'opéra de Paris, mais le Châtelet, qui a décidé depuis à peu près 2 mois de mettre à son programme la tétralogie de Richard Wagner. Et pour une fois, c'est une réussite. C'est brillant, c'est esthétique. C'est beau.
Et vous dites ça parce que vous y êtes allé.
J'y étais. Et à partir
hier
de
soir.
Hier soir.
Vous parlez de quelque chose que vous avez vu.
Et demain, je vais aller voir le dernier de ces opéras, Le Crépuscule des Dieux. Alors, à mon avis, il y a peu de chances d'avoir des places, mais il faut savoir que ça va repasser au mois d'avril au Châtelet, et je vous assure qu'il faut à tout prix y aller.
Vous avez encore pleuré.
Vous me dites que pour une fois, la mise en scène en vaut la peine.
La mise en scène,
au mois d'avril, on peut pas. On est avec Solidarité Kosovo en voyage.
Il y a bien des gens de Radio Courtoisie qui ne seront pas dans le voyage de Solidarité Kosovo. Non.
Dommage.
Sans rire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Et je peux vous assurer que j'ai été une fois ou deux à Bayreuth, et on a affaire un peu à n'importe quoi là-bas en Allemagne. Cette fois-ci, il faut aller au Châtelet. C'est magnifique.
Vous allez encore pleurer en écoutant Le Crépuscule des Dieux.
Alors, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des places, je vous conseille du 23 février au 20 mars la 9e édition de Classique en images à l'auditorium du Louvre. Un mois durant, à l'occasion de cette 9e édition, l'auditorium verra se réaliser le rêve de tout Wagnerien, assister à l'intégrale des opéras, y compris 2 opéras de jeunesse, que sont Rienzi et Défense d'aimer. Et je vous conseille de vous renseigner, car il y aura une projection du Parsifal de Cyberberg, vrai chef-d'œuvre, où grâce aux archives l'audiovisuel de l'INA, on pourra voir le travail de metteurs en scène comme Patrice Chéreau, Gottfried Rich, Hans Müller ou Werner Herzog, qui ont renouvelé notre vision de l'opéra. On va faire un peu littérature, cinéma. J'aime bien faire ça, c'est bien. Il y a une bonne nouvelle pour le cinéma. Le réalisateur Marc Rivière va adapter le roman du Finlandais Arto Pasilina, Le Lièvre de Vatanen. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, pour ceux qui ont lu le livre, c'est que le héros, le journaliste du livre, sera joué par Christophe Lambert. Alors, est-ce que ça va être un retour de Christophe Lambert? Aurélien Gérard, à chaque fois qu'il joue dans un film, c'est un four énorme. Cette fois-ci, c'est lui qui va avoir le rôle principal. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas l'œuvre d'Arto Pasilina, jetez-vous sur ses romans. Arto Pasilina est le plus grand auteur européen contemporain, drôle, cynique, rabelaisien.
Enfin, le plus grand auteur finlandais. Contemporain.
Non, européen. Européen, il faut le dire. Il faut de temps en temps prendre des risques comme ça.
Oui, vous êtes un homme de risque.
C'est un moyen de connaître cette société du Nord, complètement méconnue par nos contemporains. Et comme dirait Pasilina sur ses compatriotes, les Finlandais ne sont pas le pire que les autres, mais suffisamment mauvais pour que j'ai de quoi écrire jusqu'à la fin de mes jours.
Oui, ça donne envie de connaître les Finlandais.
Je trouve ça très drôle.
Un peu d'ethnomasochisme, ça faisait longtemps, vous avez raison.
Par contre, moi j'ai un coup de gueule, c'est contre l'éditeur français qui traduit l'œuvre de Pasilina.
Ah oui.
Sans aucun ordre, le dernier en date de parution, c'est un homme heureux qui est sorti l'année dernière, et je me suis aperçu que ce livre a été écrit dans les années 70. On a vraiment un gros problème en France sur les traductions. Pasilina, il écrit un roman à peu près un par an, et de Noël met plus de 20 ans à les traduire. Alors c'est peut-être la langue, je sais pas.
Bon, on a un seul traducteur.
Ils en sortent que un tous les deux ans. À ce rythme, nos enfants pourront peut-être lire ses derniers romans dans 20 ou 30 ans. Et pourtant, Pasilina marche très bien. Il est sorti en poche. C'est les mystères de l'édition. Remarquez, quand on sait que l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, qui a été Carl Schmitt, en France n'est traduit qu'à 30% de son œuvre, ça paraît pas étonnant. Par contre, faire des livres contre les grands auteurs allemands, alors ça on sait faire en France, mais on les traduit pas. Donc,
c'est vrai qu'il y a des livres écrits en France par des Français contre les grands auteurs qui mériteraient une traduction en français parfois.
Moi je pense aussi, oui. Donc, je résume, le livre de Vatanen, ça va sortir au cinéma, on en reparlera, c'est en décembre 2006, vous voyez, on a le temps. Et pour patienter, l'œuvre de Pasilina est éditée aux éditions de Noël, et on trouve quasiment tous ces livres en collection folio pour les gens qui ont un peu moins d'argent. Je vais vous parler BD et cinéma. La réussite tant artistique que commerciale de Sin City, je ne sais pas si vous avez vu, qui est sortie de l'œuvre de Frank Miller, qui a été une vraie réussite au cinéma.
C'est une horreur,
mais lisez la bande dessinée. Esthétiquement, c'est superbe.
C'est quand on s'est tapé le truc de Pasilina là sur la société finlandaise. Après, il faut voir ça.
Et vous allez voir ça. Et là, cette fois-ci, c'est sur son œuvre qui est l'une de ses œuvres les plus connues, qui s'appelle 300, qui va sortir au cinéma d'ici l'année prochaine. Et c'est Zack Snyder réalisera cette histoire de la bataille de Thermopylae, au cours de laquelle 300 guerriers spartiates tinrent un échec une armée de 1 million de combattants perses. Gorge étroite. Certains disent 3, même 6 millions. Mais je pense qu'à 6 millions, il y en a certains qui exagèrent. Je pense pas qu'il devait même pas être 1 million. Doté d'un budget de 60 millions de dollars, le début du tournage des 300 aurait commencé cet automne à Vancouver. Donc je pense que l'année prochaine, il va falloir aller voir ça. Ça devrait être superbe.
Oui, sur 300, effectivement, la bande dessinée en question, qui est visuellement très intéressante, qui est basée effectivement sur la bataille en question, donc qui est un mythe européen en soi, à la fois un fait historique et un mythe. Le propos sur la fin est un petit peu se transforme en ode à la démocratie et à la liberté, qui est un tout petit peu décalé au regard du contexte.
Oui, le graphisme rapproche le Spartiate, à commencer par Léonidas, de Bob Marley. Il y a une dimension jamaïcaine dans le Spartiate.
Ce sont les Perses qui ressemblent à des Jamaïcains.
Les Perses, vous l'avez mal lu, ce sont surtout les Perses. Alors c'est sûr que dans la bataille, parfois, on a du mal.
Les Spartiates ressemblent à des espèces de Serbes, c'est différent.
Oui. Bon, on va pas détailler parce qu'on espère que mes camarades est là, mais
nos amis Serbes ne termineront pas comme les Spartiates. Autrement, dans les sorties DVD, j'ai quelque chose pour vous, pour les éditions Opening qui sort le coffret qu'il faut acheter cette année, c'est le coffret de Lars von Trier, dont le mythique, le fabuleux, l'extraordinaire Europa, mais en plus de ce film, ça fait quelques années aussi qu'on l'attendait en DVD, on a sorti quasiment tous Lars von Trier, surtout ses mauvais films. Oui. Et puis je sais pas pourquoi Europa, personne ne voulait le sortir, on se demande pourquoi,
étrange.
Mais cette fois-ci, ça y est, il est sorti, alors l'éditeur a décidé de le mettre dans une collection qui s'appelle The Europe Trilogy. Donc il y aura trois films.
Europe Trilogy.
Ouais. Ils le mettent en anglais. C'est un éditeur français, ça doit faire bien.
Vous êtes sur Radio Contre Dit, Patrick Péel, faites un effort.
Oui, mais si quelqu'un cherche la trilogie européenne, il ne trouvera pas. Voilà, donc c'est un titre anglais. Et donc nous aurons Europa, le film épidémique et Element of Crime, que je n'ai pas vu. Donc le problème, est-ce qu'il y aura une possibilité de déchirer ce coffret, de prendre que Europa, je ne sais pas si ça passera à la caisse. En tout cas, je vous conseille ce film, c'est l'un des plus beaux. On est faits sur l'après-guerre en Allemagne.
Sur l'immédiate après-guerre.
Sur l'immédiate après-guerre. Ah oui,
ça passe, c'est les 6 mois, peut-être maximum, les trois mois qui suivent.
Maximum. Le chaos en Allemagne. Alors Lars von Trier, il a fait aussi une série qui est très drôle, qui s'appelle L'hôpital et ses fantômes. C'est une série fantastique qui est passée il y a quelques années sur Arte, qui est passée un peu inaperçue et qui est peut-être ce qu'il a fait de mieux. C'est magnifique et cette fois-ci, ça sort. Les deux premières saisons sortent en même temps. Donc c'est une bonne nouvelle. À ce niveau-là, en DVD.
Il y a plein de bonnes nouvelles.
Voilà.
Bah, il y a quand même une nouvelle, nouvelle qui est quand même moins bonne. Ou alors, ce qui disparaît revit d'une autre manière. Mais on a quand même un décès à formuler. Mais pour être mieux sublimé.
J'observe que donc la chronique culturelle de Patrick est Patrick, vous êtes un adepte du superlatif absolu. Donc Arto Palizinina est le plus grand auteur européen vivant. Wagner et sa tétralogie sont extraordinaires effectivement. Et de quoi allez-vous nous parler la prochaine fois?
Mais vous remarquerez, Olivier, que dans le showbiz c'est comme ça. Tout le monde est formidable.
Oui,
tout le monde
se félicite toujours.
Tout extraordinaire.
Tous les films sont des films cultes. Ouais. Les romans sont tous des chefs-d'œuvre.
Patrick est comme ça.
C'est le type
sympa de l'émission.
Voilà. Et vous remarquez, je n'ai critiqué personne cette fois-ci.
Mais non, mais c'est surtout que Pasilina dit beaucoup de bien de Patrick PL aussi. Comme... Donc bon.
Bon, alors, l'un dans l'autre.
Oui, là, en revanche.
À la fois triste et gay.
Oui, gay.
Vous n'allez avoir que des critiques du pessimisme.
Non,
vous allez
voir. Au contraire.
Xavier Van Lierde,
la roue du temps
en chef politique.
La roue du temps en tout sens politique. Tourne éternellement, Xavier Van Lierde. Relève politique, on vient de recevoir, nous, abonnés, le dernier numéro, tout de noir vêtu, mais qui annonce mort et résurrection de relève politique.
C'est le dernier numéro dans tous les sens du terme. C'est le dernier numéro paru et c'est également l'ultime numéro qui paraîtra. Hans Junger disait que la compassion du bourreau consistait à frapper d'un coup net et juste. Eh bien, je le dis donc tout de go, relève politique ne paraîtra plus.
Mais je venais de m'abonner.
Mais ce n'est pas la fin de l'aventure dans la mesure où, d'une part, au moment où relève politique annonce qu'il disparaît, les chroniques de la vieille Europe accueillies par le journal de Serge de Bekech renaissent. Et par ailleurs, un certain nombre de la plupart des rédacteurs historiques de relève politique sont accueillis dans une autre revue qui s'appelle Monde et Vie, qui est en expansion et qui mise sur le renouvellement et la jeunesse de ses rédacteurs. Et donc
c'est une sorte de fusion.
Non, c'est pas une fusion, faut pas exagérer, mais les abonnés de relève politique ne seront pas floués, puisque
ça serait bien la première fois.
À mesure des abonnements qu'il leur restait, des numéros qu'il leur restait à recevoir, eh bien ils recevront Monde et Vie.
Mais celui qui est déjà abonné à Monde et Vie.
Il recevra deux exemplaires et il offrira le second à son oncle ou à sa tante pour faire la promotion des idées nationales, comme il en a le devoir.
Alors, je voudrais quand même lire, parce que vous faites un édito, donc quand même, le dernier numéro est très très fourni, hein, donc c'est une belle dernière livraison que vous nous offrez. Et je voudrais quand même lire une partie de votre éditorial où vous expliquez que relève politique disparaît, Monde et Vie prend le relais, en plus ça rime, c'est beau, parce qu'on est quand même ici des adeptes souvent de la question démographique, et donc je voudrais lire ce que vous écrivez. Certains événements, comme l'agrandissement régulier des charges de famille des différents collaborateurs de la revue, sont d'heureux événements. Reste qu'ils se sont révélés extrêmement perturbants pour notre équipe. La preuve nous en a été administrée. On consacre bien plus difficilement ses soirées et ses week-ends à la rédaction et à la mise en page d'articles lorsqu'on est sollicité par les cris, pleurs et autres piaillements inhérents à toute famille nombreuse. Surtout, nous avons été nombreux à considérer que la relève de chair, de sang et d'âme dormant dans nos berceaux respectifs méritaient au moins autant d'égards que la relève d'encre et de papier qu'était relève politique. Je trouve que c'est plein d'humilité pour votre plume et plein de vigueur pour cette relève démographique dont nous avons tous besoin. Voilà, j'avais envie de lire ça, n'en déplaise aux mauvaises âmes. Voilà, bravo Xavier. Autre.
Et il faut s'y mettre. Vous êtes le maillon faible.
Grégoire Gambier, vous avez quelque chose comme une revue sous les yeux. Est-ce que vous mettriez la lecture récemment ou...
Non, mais trop récemment. Simplement le dernier numéro de l'Histoire que les auditeurs de Radio Courtoisie et des chroniques de la Vieille Europe connaissent bien. Hein, c'est la revue convenue de tout étudiant en histoire, généralement assez intéressante. Mais le dernier numéro de ce mois-ci est consacré donc à l'apartheid, la ségrégation, la discrimination. discrimination, donc sujet ô combien d'actualité, et avec un traitement politiquement correct des plus éhontés, et donc assez largement mensonger même pour une part. Mais le débat du mois, et c'est une interview de Françoise Chandernagor, qui soutient l'appel Liberté pour l'Histoire, et, comme vous le savez, qui regroupe donc un certain nombre d'historiens parmi les plus éminents pour demander que l'on cesse ces faux débats donc sur les lois qui sont censées encadrer l'histoire, et pour demander purement et simplement l'abrogation de toutes les lois qui encadrent la recherche historique. Donc c'est assez drôle et c'est assez révélateur de la schizophrénie qui atteint une grande part de l'establishment le plus politiquement correct en ce moment.
Olivier Lebrun.
Mais sur cette même question qui va permettre de faire la...
Vous rebondissez, Olivier Lebrun.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire et sur une remarque de notre invité dans sa description vivante et extrêmement intéressante de sa mission au Kosovo. On parle donc d'histoire officielle, des liens plus ou moins incestueux, antithétiques ou naturels entre histoire et mémoire. Est-ce que la loi fait l'histoire? Est-ce que l'histoire est du domaine des historiens et du domaine des législateurs? Et on a parlé du communisme à propos du Kosovo et de la longue nuit communiste sous laquelle a gémi le peuple serbe, parmi d'autres. Il y a quelque chose qui n'a pas dû échapper aux auditeurs du Courtoisie, qui s'est passé la semaine dernière, donc qui s'est étalé sur plusieurs mois. Le Conseil de l'Europe, hein, qui réunit la plus grande partie des nations du continent, a débattu il n'y a pas longtemps de l'opportunité de condamner officiellement les crimes du communisme d'un point de vue historique et d'un point de vue idéologique. Donc certains journaux s'en sont fait l'écho, sans toutefois mentionner certains points intéressants du projet préparé. Si vous voulez, j'ai sélectionné 4 points dans ce projet de résolution qui a été voté il n'y a pas longtemps, malgré l'opposition farouche des partis communistes européens qui ont fait un lobby de dernière minute assez violent. Donc ça s'intitule « Nécessité d'une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires ». Vous trouvez ça sur le site du Conseil de l'Europe. J'ai sélectionné 4 articles. Le premier, alors qu'un autre régime totalitaire du XXe siècle, le nazisme, a fait l'objet d'enquêtes, a été condamné internationalement et que les auteurs des crimes ont été jugés, des crimes similaires commis au nom du communisme n'ont jamais fait l'objet ni d'enquête ni d'aucune condamnation internationale. Un deuxième article. Tout ça, et le rapporteur est un député suédois, c'est tout ce qu'il y a de plus
libéral.
Libéral. Le deuxième article, il semblerait qu'une sorte de nostalgie du communisme soit encore présente dans certains pays, d'où le danger que les communistes reprennent le pouvoir dans l'un ou l'autre de ces pays. Le présent rapport devrait contribuer à une prise de conscience générale de l'histoire de cette idéologie. Un autre article intéressant, je prends au hasard, hein. Les symboles communistes sont ouvertement utilisés et le public est très peu conscient des crimes communistes. Ce faible degré de conscience est particulièrement frappant par comparaison avec la connaissance que le public a des crimes nazis. L'éducation donnée aux jeunes générations dans nombre de pays ne contribue certainement pas à réduire cet écart. À méditer. Et enfin, pour quand même, tout n'est pas rose, et ça va nous faire atterrir, qu'à des derniers articles, il convient de souligner qu'il n'est aucunement question dans ce rapport d'octroyer une compensation financière aux victimes des crimes communistes et que la seule réparation préconisée est de nature morale. Effectivement, la différence. Effectivement. Alors dans la série George Orwell vous parle, la façon dont le monde a traité de cette une énième facétie du monde, hein, sur cette histoire de l'article 4 du projet de résolution, je vous le lis. L'Assemblée reconnaît que malgré les crimes des régimes communistes totalitaires, certains partis communistes européens ont travaillé à la réalisation de la démocratie. Ce qui est un scandale en soi. Traduction du Monde, dans un article très récent, ouvrez les guillemets, tout en concédant que certains partis communistes européens ont travaillé à la réalisation de la démocratie, comme le Parti communiste français PCF à la Libération, le projet de résolution invite, ainsi de suite. Donc, ce ne se trouve pas dans l'article. Le Monde l'écrit, le Monde désinforme, le Monde est égal à lui-même.
Merci. Vous aviez un rapide commentaire, Grégoire Lombier?
Non, tout simplement pour situer dans le contexte, le Conseil de l'Europe est un peu une excroissance, un vestige quand même de la guerre froide, très marqué par l'atlantisme fondateur, et c'est un peu comme l'OTAN. Donc, il faut resituer les débats qui ont lieu dans ce genre.
Ça prouve qu'il peut y avoir de bonne surprise, même là où on les attend pas, Grégoire Lombier.
Oui.
Alors, deux éléments. D'abord, certains auditeurs, plusieurs messages d'auditeurs qui rebondissent sur ce qu'a dit notre invité tout à l'heure, effectivement sur la purge ethnique organisée d'abord par les titistes et ensuite par les Américains sur donc le départ des Serbes du Kosovo. Donc plusieurs messages là-dessus et un auditeur nous demandant de repréciser encore l'adresse à laquelle nous pouvons de contribuer, donner des dons à Solidarité Kosovo. Donc Solidarité Kosovo, boîte postale 15. Boîte postale 15, 38 560 Jarry, 38 560 Jarry, J-A-2-R-I-E. Sur ce qui était du domaine de la culture ou des sites internet, puisqu'on a parlé à la fois de des banlieues tout à l'heure des développements les plus actuels, je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie d'aller faire un tour sur le site internet de Fondation Polemia, donc www.polemia.com, qui a un dossier très à jour avec énormément d'éléments qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment une vue spectrale de la presse internationale sur les sujets. Et alors, en direct, de Grégoire Gambier de don pour Solidarité Kosovo.
Merci beaucoup.
Donc, il s'économise le timbre qu'il n'enverra donc pas à boîte postale 15 38 560 Jarry. Messieurs, un dernier commentaire ou
bravo Grégoire Gambier.
Quel geste européen s'il en est.
On fait honneur aux chroniques de la vieille Europe.
On peut également à quelle adresse peut-on se procurer le dernier numéro de Relève Politique qui donc a une importance historique
Un collector.
Un collector là.
Eh bien on peut se procurer ce collector à l'adresse de Mont-des-Vies, 14 rue Edmond-Valentin dans le 7e arrondissement de Paris. Mont-des-Vies, 14 rue Edmond-Valentin dans le 7e arrondissement de Paris.
Et j'imagine que pour l'avoir, il faut envoyer un chèque de combien ? Parce que c'est quand même pas gratuit.
Il faut, oui, effectivement, c'est absolument pas gratuit. Il faut envoyer un chèque de 9 euros.
Voilà. De 9 euros, donc à l'adresse de Mont-des-Vies qui a été citée par Xavier Van Lierde. Mais écoutez, merci à tous les cinq pour cette reprise des chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal de Serge de Bekech. Nous nous retrouverons normalement d'ici 4 à 5 semaines. Aujourd'hui, la date n'est pas fixée. Merci à vous, Nicolas Mijatovic, pour ce que vous avez fait, ce que vous allez faire et comment vous en parler.
Merci à vous,
Grégoire Gambier, Olivier Lebrun, Xavier Van Lierde et Patrick Féel. Et un grand salut à tous les auditeurs des Chroniques de la Vieille Europe. À bientôt, bonsoir. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national.